Warning. Si vous n'avez pas encore vu le film qui suit et que vous ne voulez pas que l'intrigue vous soit dévoilée, arrêtez ce podcast maintenant. On vous aura prévenu.
We appreciate your volunteering. You're a very good observer, Cole.
Thank you.
We have a very advanced program, something very different.
An opportunity to reduce your sentence considerably.
And possibly play an important role in returning the human race to the surface of the Earth.
We want tough-minded people. Strong mentally. We've had some misfortunes with unstable types.
For a man in your position, an opportunity not to volunteer could be a real mistake.
Definitely a mistake.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life. Fucker.
24 secondes.
Nous sommes le 28 avril 2015, bonjour à tous et bienvenue au 35e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction, lors duquel nous repassons à travers des films et séries que nous avons aimés, ou pas. Je suis Nicolas Petzilla, c'est avec moi, Marie-Louise Gariepi.
Allô.
Et Olivier Sabineau.
Quark, quark.
Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur notre site internet 24quarks.com, c'est 2-4-Q-U-A-R-K-S.com, et sur iTunes. Et si l'envie vous prend de réagir à une discussion, commenter, nous faire des suggestions ou de quoi, vous pouvez aussi nous contacter par courriel à 24quarks@gmail.com. Ce soir, on fait dans le multi-thématique.
Ah, mais c'est surtout voyage dans le temps quand même.
Ouais, ouais.
Parce qu'on a décidé.
Non, mais parce que c'est voyage dans le temps, post-apocalyptique, cyberpunk, tu sais, ça coule.
Un peu Uchronie, c'est bord.
Ouais. Dystopie, tu sais.
Moi, je pensais beaucoup voyage dans le temps.
Oui, bah, principalement. C'est, mm-hmm.
Ouais. Post-apocalyptique.
Et puis même, ouais. Romantique. Un peu.
Oui.
Ouais, mais là.
Ouais, c'est cute.
Et donc tout ça, non, c'est dans. Et tout
on
ça,
est pas
c'est
dans les styles de science-fiction en ce moment.
Non, non, c'est sûr. Mais tout ça, c'est dans 12 Monkeys de Terry Gilliam qui date de 1995.
Oui, qui date. Trois petits points. De quelle année?
Ah ouais?
Bref.
Ah,
non, continue.
Ah, non, non, non,
on a un commentaire déjà.
On a déjà un commentaire.
Non, j'ai l'impression que ce film-là.
Attends, finis ton. On n'est pas rendu là.
Non, mais mon intro, elle est. Non, non, mais c'est bon, on va pouvoir y aller. Juste avant, on va. C'est Marie-Louise qui nous a trouvé un petit vin là pour accompagner la conversation.
Ah.
Vivanco.
Ouais, vas-y, explique-nous un peu.
Alors moi j'ai choisi un film qui me faisait penser.
Un film.
Un vin, pardon.
Moi un film puis on regarde un vin. C'est génial.
Un vin qui me faisait penser un petit peu à Terry Gilliam dans une espèce de petit côté là. L'étiquette est de une peinture de Miro. Et puis quand j'ai lu en arrière la description, je trouvais ça intéressant parce qu'il y avait plein de références au temps. Donc, il parle que ça fait 8000 ans que le vin fait le vin. On s'entend, c'est pas super, recherché, là, comme étiquette. Puis là, on dit qu'en 2004, leurs familles se sont lancées dans la création de ce vin-là. Et la bouteille est inspirée de bouteilles du 18e siècle. Et la peinture date de 1974. Donc, plein de choses qui se passaient dans le temps, dans la description du vin. Okay. Puis, j'avais envie de prendre quelque chose qui était plus une inspiration. Puis, ben, on a pris en photo l'étiquette. Je vais vous mettre ça sur Facebook. Ça va vous voir un petit peu. On reconnaît aussi, ça pourrait ressembler à notre ami Cole là, qui se promène dans le temps. L'étiquette.
On semble de la machine à voyager dans le temps, mais quand il se fait questionner par les scientifiques.
Il y a quelque chose aussi d'un petit peu delusional, là, ouais. Le petit côté fou. Donc, tu sais, ça me plaisait bien d'essayer de chercher quelque chose qui était peut-être. J'avais pas envie d'une bouteille avec un singe dessus.
le choix trop facile ou trop difficile.
J'ai quand même regardé, il n'y en avait pas. Hein? Ouais. Mais bon, tu sais,
c'est un Rioja quand même, juste pour préciser.
Oui.
C'est un Rioja, un Crianza, je sais pas comment on prononce, 2010.
Très bien, en fait.
Et, ouais,
on l'aime bien.
Et vraiment sympa, ouais. Vraiment intéressant.
On est chanceux, hein? Comme je parlais tantôt, je veux dire, on achète des vins thématiques au hasard, des fois des conseils, des fois de l'instinct, des fois de la chance, puis on est rarement mal tombé.
C'est vrai, ouais. Non, c'est
avec
bien.
Toutes les suggestions qu'on vous a faites, toutes les photos des étiquettes de vin qu'on a mis sur Facebook, c'est toutes des valeurs sûres à date. Allez-y, gâtez-vous.
Peut-être qu'il faut qu'on parte un podcast de vin.
Ouais, c'est ça.
Non, mais moi, j'aime bien l'idée alliage vin et cinéma. On pourrait faire ça, parce qu'on fait vraiment un effort...
Ouais, la gang de le dernier podcast font ça avec la bière, mais c'est pas un choix thématique, c'est plutôt un choix, c'est juste
un choix alcoolique.
Ouais. C'est plutôt ça. C'est pour avoir du fun. T'sais.
C'est plate d'avoir du fun, on n'aime pas ça.
Juste avant de commencer, je voulais faire des petites plugs. Tu sais, j'aime bien maintenant, faire des petites, pas des news, mais des petites plugs ou des petites allusions à des choses qui sont passées, tu sais, ces derniers temps, là. Mm-hmm. Puis on peut pas passer à côté, on peut quand même pas passer à côté de la déferlante de Star Wars qu'il y a eu.
Écoutez, moi, j'ai
mais
été.
Mais c'est juste parce qu'on n'avait pas eu, on s'est pas parlé, on n'a pas eu le temps d'en parler, puis je voulais juste avoir votre.
Écoutez, moi, vous avez capoté, parce... mais j'ai même pas vu encore le film.
What a shame!
Là, c'est sorti en plein milieu d'un petit drame personnel. Oh. Et puis, ça, j'ai vu par contre la vidéo que tu as mis de.
Avec Matthew McConaughey.
Matthew McConaughey, que j'ai comme écouté un peu qui réagit, donc j'ai compris ça très très drôle. Puis, je pense que c'est toi qui avais mis un commentaire quand le trailer était sorti, que ça t'avait donné le goût de pleurer.
Ouais, ça, j'ai eu les larmes aux yeux.
Alors, c'est comme tout le monde a eu.
Non, c'est vrai, à la fin.
Puis tout le monde dit ça, mais je ne l'ai pas encore vu, donc peut-être à la fin du podcast, je vais l'écouter en
direct. On peut l'écouter live pour voir ta réaction. Ouais. Ça dans notre podcast, ça. Comme si t'allais à la mode d'avoir
mais
la réaction.
Je suis pas aussi émotif que Nick sur Star Wars, donc je sais pas si je vais pleurer.
D'ailleurs, Nick porte présentement un super t-shirt de Star Wars avec la princesse Léa, qui a l'air tout droit sorti des années 70, mais d'un film de blaxploitation.
Mais non, mais tu la reconnais pas, c'est Léa.
C'est le retour du Jedi.
C'est Léa dans le retour
oui,
du Jedi.
Oui, mais la façon que le lettrage est écrit,
ouais, ça fait un peu Flash Gordon.
Ça, c'est
ouais.
Hipster exactement. Au bout, là. Il mélange tout, là. Ouais, Star Wars ouais. Avec les années 70.
Ah, ça, cool, j'adore ça.
Star Wars, années 70.
De quoi tu parles?
C'est pas 80.
Pour en revenir, Nick, c'est quoi, ça a été quoi ta réaction, toi, quand tu l'as vu, là?
Ben. Bon, déjà, pleuré, alors, attends, parce qu'on a eu.
À part l'érection que t'as eue, là.
Ouais. 70. Ouais. Il a pleuré. Arrête de dire des choses. Vous êtes rendu, vous avez transformé quelque chose de beau en.
Ouais, non, excuse-moi. Okay, non, c'est pas vrai.
C'est vrai, on sait que t'es prude, toi.
Non, mais c'est vrai que j'ai eu la chair de. Ben, déjà, avec le teaser, déjà, j'avais la lueur d'espoir. J'étais là, déjà, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Et puis là, ça a comme été confirmé. Je vais pas dire que c'est du fan service, mais bon, tout le monde en a déjà parlé, donc voilà, il y a rien de nouveau. Mais je veux dire, tu sais, il y a comme là, il y a tous les liens avec ce qu'on aime de la trilogie originale. Mm-hmm. Donc le aftermath de toute la guerre qu'on a vue avec les vaisseaux écrasés dans le désert.
C'est jouissif.
Ouais, il y a R2-D2, il y a c'est tous ces trucs qu'on a aimé. Donc là, il va tirer la corde sensible. mais au moins, c'est que tu sens le respect du
ça, ça prenait ça, hein, sinon.
Ouais. Et je pense, mais déjà avec le premier teaser, il y avait quelque chose.
Moi, le premier teaser, je trouvais que ça donnait tellement pas assez d'informations que ça m'a laissé, comme beaucoup d'autres mondes, genre comme un peu neutre.
Ah ouais. Ah,
juste pas.
T'attendais là.
Ah, moi, j'avais les frissons là à la fin. Là, j'avais les frissons. C'est clair.
Moi, j'ai juste comme. Je trouvais que c'était pas assez, puis mais j'ai la même réaction que toi pour le teaser d'une minute trente. Là, tu fais comme ouf.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Oui.
Là, tu te sens à la maison. Tout à coup, il y a un truc. T'es à la maison. Tu sais, il y a un truc qui vient te chercher vraiment. Puis bon, la fin avec Han et Chewie. Là, ça c'est le summum. Là, j'ai eu la larme à l'œil carrément, quoi. Carrément, t'es la boule dans la gorge, puis la larme à l'œil, genre. Vraiment. Là, j'étais scotché devant. Je l'ai regardé après. Je pense. Une dizaine de fois.
Ah, Marie-Louise.
Ça vient chercher ces trucs de l'enfance, tu sais, qui t'ont bercé, là, qui t'ont fait rêver.
C'est ça que ça prenait. Moi, j'avais une part avec J.J. Abrams qui. Ça, c'est un autre réalisateur où une fois sur deux, il fait des trucs majestueux, puis l'autre fois, je suis comme pas trop sûr de...
Ouais.
Comme son film Super 8, moi, j'ai pas du tout embarqué là-dedans. Il y a des trucs, des fois, c'est comme... Il essaie trop d'être lui-même, puis à mettre des flares partout. Mais là, il y avait pas le choix. Puis je pense qu'à un moment donné, j'avais eu une entrevue comme quoi il voulait pas faire Star Wars, mais que la productrice, elle l'a vraiment... Il a tordu un bras. Puis qu'il voulait pas pour deux raisons. Mais en fait, une officielle puis une officielle, ce que j'ai deviné moi-même. La raison officielle, c'est qu'il voulait pas faire une suite de quelque chose encore. Parce qu'il venait de faire les Star Trek.
Ouais.
Ça, c'est une excuse de merde quand on t'offre de faire Star Wars. Fait que la raison la vraie raison, ça devait être genre qu'il avait peur. Parce que n'importe qui se fait offrir de faire Star Wars après tout ce qui s'est passé depuis 30 ans, devrait avoir peur. de faire 30 ans, 40 ans.
Ouais.
Tu sais, George Lucas lui-même a foiré sa patente.
J'entends tes dents, Marie-Louis.
Excuse-moi, je mange une glace.
Fait qu'imagine la pression, justement, de satisfaire les fans, parce que t'as pas le droit de te planter. Rendu là, faut que tu sois magique. Puis là, je pense qu'il y a du potentiel.
Ouais, là, la magie, elle est là. Maintenant,
est-ce que c'est vraiment possible? Parce que quand on regardait les bandes-annonces de...
Ben, c'est un espoir naïf, on y croyait pas vraiment.
Non, mais tu sais, voyons, j'ai un blanc, la suite.
Ouais,
Alien,
le Phantom Menace.
Alien, là, voyons...
Ah, Prometheus.
Prometheus. Ah, ouais. Et c'était bonne, les bandes annonces de Prometheus. Ouais. On attendait impatiemment. Donc, moi, je vais rester quand même.
Le problème des bandes annonces. Une bande annonce qui est trop bonne appelle en général pour un mauvais film et l'inverse.
Ouais, ça, tu l'as dit la dernière fois. Je suis pas
souvent parce que.
Ça,
mais... Puis là, tu vois, il y a Mad Max qui s'en vient. Ouais. C'est le film que j'ai le plus hâte de voir cette année, même plus moi que aussi. Star Wars. Les trois bandes annonces qui sont sorties sont tellement bonnes, j'ai peur. Mais j'ai l'espoir naïf quand même que ça va être extraordinaire.
Ouais. Non, c'est ça. Puis donc, ouais, coup sur coup, alors on a eu ça. Après, on a eu un mini teaser de Rogue One qui va être le premier film comme périphérique à l'univers qu'on connaît, tu sais. Ça reste dans l'univers Star Wars, mais c'est périphérique à l'arc, si tu veux, à l'histoire qu'on connaît. Ouais, il y a eu ça.
Le film de Garrett Edwards?
Ouais, il y a eu une bande-annonce. Tu l'as pas vu, celle-là?
Non, du tout.
Je pense que je l'ai postée sur la page Facebook aussi.
Oh my God.
Et alors, elle n'a pas été diffusée par Disney ou Lucasfilm officiellement. C'est un bootleg, là. C'est filmé par... Il y a plein de gens qui l'ont filmé puis qui l'ont mis en ligne. Mais c'est une shot, c'est un plan, c'est un plan séquence. C'est pas très long. Il y a... une ligne de texte dessus, enfin une phrase d'Alec Guinness qui est reprise du premier Star Wars. Et puis bah ça donne envie aussi. Alors c'est sûr que bah, ça raconte, bon maintenant on le sait officiellement, ça raconte l'histoire de ceux qui sont allés chercher les plans de Death Star, de l'étoile noire.
Que Leia remet à
R2-D2 au début du premier, ouais, c'est ça. Donc ça fait comme ça raconte ça.
Ça patche les trous, comme un peu il y a l'histoire qui existe entre les deux.
Tu veux dire le premier, le troisième, là?
Ouais, l'épisode 4. L'épisode 4. Le premier réalisé, si tu veux. Le tout premier qui a existé de Star Wars.
Comme il existe une histoire, je pense que ça a été fait en livre, c'est l'histoire qui se passe entre l'épisode 5 et l'épisode 6, quand ils vont essayer de sauver Han Solo. Ouais. Puis ça raconte tout un peu pourquoi on est surpris au début du retour du Jedi quand Princesse Leia arrive dans son sceau, puis tout ce que Lando aurait pu faire entre-temps. Il y a toute une histoire qui existe à travers ça.
C'est ça.
Ça pourrait être un super film à faire. Il est peut-être trop tard parce que les acteurs sont trop vieux, mais...
Ben, peut-être qu'ils planchent là-dessus, en tout cas...
C'est animé.
En tout cas, puis ils appellent ça Star Wars Anthology. C'est bizarre. Donc ça part dans un autre truc, là. Et puis ça va être le premier d'une série, là. Donc voilà.
Il y en a un sur Boba Fett aussi.
Au début, il avait annoncé que Garrett Edwards, qui est le gars de Godzilla, ferait celui sur Boba Fett, mais finalement...
Non, lui, il est sur Rogue One.
OK.
Et voilà, donc il y a ça. Enfin bon, il y a eu l'annonce du jeu Battlefront, qui est comme une recréation de la bataille de Andor et autres, enfin, du retour du Jedi, qui ça a l'air assez fabuleux.
Mes amis gamers sont très excités.
Ouais, c'est ça. Et puis, enfin, on a eu ça. On a eu quoi? La bande-annonce de la saison 2 de Star Wars Rebels, que si vous avez pas vu, c'est une série animée, là, qui passe sur, je crois que c'est Nickelodeon. Non, sur Disney XD, pardon. Et moi j'ai vu la première saison, franchement c'est super cool.
Ah ouais.
ça vaut un show pour enfants, c'est super cool quoi.
De quoi?
Star Wars Rebels.
Ah OK.
C'est créé par le même créateur qui avait fait La Guerre des Clones animée, tu sais, la série animée de La Guerre des Clones, et Dave Filoni si je me trompe pas. Et franchement c'est super sympa. Ça se passe avant l'épisode 4. Donc ça fait comme le lien entre les deux, entre les prequels, puis enfin ça fait pas tellement le lien, mais c'est simplement ça se passe dans cet intervalle entre les prequels, puis
et
juste avant, tu sais, quelques années avant le ou quelques peut-être décennies avant le ce qu'on aime, la trilogie originale. Donc il y a plein de liens avec la trilogie originale qui font super plaisir là de nous. Ça fait du bien, tu sais, quand tu vois ça. Puis là, c'est super sympa, c'est fun, c'est léger, c'est cool.
C'est dur de pas te parler de Star Wars pendant moins de 10 minutes. Hein.
Ouais, c'est terrible.
Même si c'est hors sujet.
Mais bon, on va passer. Enfin, je voulais juste faire allusion à ça parce que voilà. Puis accessoirement, on a eu quoi? Ah ouais, Batman versus Superman.
Ah, tu vois, je n'ai pas écouté sur le nom. Il y a aussi
ça, c'est des super-héros, c'est pas de la sci-fi.
Superman Returns, recolorisé.
Je trouvais super maladroit de la manière dont ils ont balancé cette bande-annonce, mais bon, on va pas commencer à rentrer là-dedans.
Juste, c'est du super-héros.
On peut en débattre, mais Superman étant un extraterrestre, est-ce que ça rentre dans la science-fiction ou pas? C'est ça. Peut-être une fois. Bref, allons-y avec 12 Monkeys quand même. Hein. On est là pour ça. Alors, un petit résumé d'abord. Dans un futur où le monde a été dévasté par la maladie, le détenu James Cole, joué par Bruce Willis, est choisi pour être le sujet d'une expérience de retour dans le temps afin de recueillir des informations sur ce virus créé par l'homme qui fut la cause de la disparition de la majeure partie de la race humaine. Voilà.
Ah, c'est fini.
Aucun spoiler. Hein.
Non, non, mais bon, bah, de toute façon, on va en spoiler pas mal. Mais comme
où est-ce qu'on a vu ça pour la première fois?
Ouais, genre, c'était quoi votre feeling?
Moi, je pense bien de l'avoir vu au cinéma à l'époque. C'était en
95 ou 16.
Ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir vu ça au cinéma parce que j'étais déjà.
Excuse-moi, la sortie était en 80. Le film date de. Ouais. Production en 95, mais le film est sorti en janvier 96. Ce qui est super étonnant, en janvier, tu sais.
Ça veut dire qu'ils croyaient pas beaucoup.
Genre le 5 janvier.
Moi, les films qui sortent en janvier, c'est les flops.
Ouais, c'est ça.
Non, j'ai l'impression qu'ils croyaient pas à ce film-là, effectivement. Hein.
C'est devenu un cult classique, mais je suis pas sûr que ça ait eu un succès nécessairement.
Si, ça a été un succès.
Ah oui, ouais, c'est un
budget,
succès.
Budget 30 millions mais... et recette mondiale 170 millions, un truc comme ça, si je me trompe pas. Attends.
Oh là là.
Mais moi, je te dirais aussi que ça surfait beaucoup sur le fandom de Brazil, parce que tout le monde avait.
Ouais.
C'était son follow-up de Brazil, ça
Non, il y avait.
Attends,
il y avait fait.
Les années 80,
il y avait fait. Non, il y avait fait aussi le. Fisher King.
Oui, voilà, c'est juste après Fisher King.
Ah. Ouais.
Donc c'est ça, qui avait été un succès aussi, si je me trompe.
Fisher King,
pas.
Ça avait été un gros succès, ouais.
Son film qui ressemble le moins à ce qu'il fait d'habitude en termes de flyer, genre.
Mais il y avait un petit côté flyer dans Fisher King quand même, mais c'est plus subtil.
Ouais, mais c'était plus touchant comme film.
Ouais, ouais. C'était plus un drame traditionnel.
Ouais. Mais attends, je vais trouver ça.
Il avait fait Les Aventures du Baron Munchausen.
Ouais, il y avait Munchausen.
Il avait
ouais.
fait Quest of the Ah non, ça c'est un jeu vidéo, ok. C'est
attends, ouais. je vais retrouver ça dans l'ordre.
Fear Nothing in Las Vegas.
Ah ouais.
Voilà.
Qui était. Mais t'as pas
eu. Non. Fear and Loathing, c'est venu après 12 Monkeys. Juste avant, c'était
juste
Fisher
après.
King. Donc c'est ça, Brazil, Munchausen, Fisher King, 12 Monkeys.
Ah ben.
C'était ça dans l'ordre.
C'est une bonne lancée quand même.
Ouais. C'est plutôt pas mal.
Je suis dans la mauvaise truc. Je disais ce qu'il a écrit. Il n'a pas écrit Fisher King. Il a écrit Brazil, les aventures de Baron.
Ouais, mais selon où tu regardes, ils sont pas dans l'ordre.
C'est pour ça que c'est plus différent, peut-être.
Ouais, c'est ça.
Il a dit, je vais essayer quelque chose.
Ouais. Exactement.
Écrivez-le et je ferai semblant. C'est comme Lynch quand il a fait.
Le truc qui se promène
en tracteur. Là.
En tracteur, j'ai même pas vu celui-là de Lynch.
Non, moi non plus, mais c'est son film le plus normal.
Oui, pareil.
Bref.
Il y en a qui disent que. Il y en a d'ailleurs qui soutiennent la théorie, parce que j'ai pas vu son dernier. Enfin, celui de 2013, le Zero Theorem. Vous l'avez
j'ai
vu?
Commencé
c'est,
à l'écouter.
C'est spécial.
J'ai commencé à l'écouter, là, comme j'écoutais les trois premières minutes, là.
OK.
C'est pas mauvais du tout. C'est très Terry Gilliam. Je veux dire, dans les dernières années, il est très vrai par rapport à son style. Moi, je trouve qu'il a commencé à trouver son vrai style à partir de 12 Monkeys, justement, à expérimenter des choses qu'il a continué à faire beaucoup plus à travers sa carrière qu'il avait fait avant. Mm-hmm. Bon, il y a eu la passe Monty Python, il y a eu la passe Munchausen, que j'appellerais. Qui...
Ouais, ou Time Bandits. Ouais, non, Time Bandits, c'est encore dans l'esprit.
T'oublies Brazil, là?
Ouais, mais c'est OK. Brazil, Time Bandits, puis Munchausen, c'est comme pour moi, c'est une phase qu'il a faite. Okay. À partir de 12 Monkeys, il s'est mis à expérimenter un peu avec la mise en scène, les plans de caméra, les wide angle, les plans croche.
Oh, le wide angle, puis les plans Dutch, c'est quand même un peu son trademark.
T'avais
oui, mais
Brazil,
depuis
aussi.
Ce film-là, surtout, parce que là, c'est de l'abus total dans ce film-là. Il avait vraiment pas,
vrai.
Il avait pas vraiment fait ça avant. Un peu dans Brazil, mais pas tant. Ouais. Mais là, il s'est dit, j'essaye de quoi, puis il a aimé ça. Là. Ouais, puis là, après ça, il en a mis partout. Fait que Zéro Théorème ou les autres qu'il a fait dans les 5-10 dernières années sont beaucoup.
Il y en a qui disent que Brazil, 12 Monkeys et Zero Theorem forment une trilogie.
Ah.
Ça n'a pas du tout été confirmé par lui. Je sais qu'il en a parlé en disant bon, ben si ça existe, c'est peut-être que ça l'est. Enfin, si les gens disent
c'est peut-être
que ça l'est.
Tu sais,
voilà, ouais. Ça n'a pas été prévu comme tel, mais. Je sais pas, j'ai pas vu Zero Theorem, donc je sais pas s'il y aurait un possible lien entre les trois, mais.
Puis là.
Peut-être, mais c'est.
On était en train de parler du film, mais on n'a pas su où est-ce que vous avez écouté. On n'a pas fait notre. Faut respecter
ouais,
la tradition.
Ouais, c'est à moi de commencer. Ben, moi, toi, t'étais partie dedans.
C'est
mais...
ça, j'ai vu au cinéma, mais je me rappelle l'avoir revu plusieurs fois. Puis c'est un film que j'avais adoré à l'époque. Ça, c'est sûr. J'ai adoré ça, sauf pour Madeleine Snow.
Stowe.
Je l'aime pas, cette actrice-là. Je suis pas capable. Je l'ai réécouté tantôt au début. J'étais comme.
OK. Girl Next Door.
Non, c'est non, au contraire, c'est une belle femme, là. C'est pas une girl next door du tout, là.
Non, c'est une belle femme qui essaye de faire passer pour une girl next door, mais ça marche jamais.
À un moment donné, elle devient comme hystérique, puis elle m'énerve. J'aime pas sa manière de jouer comme les émotions, comme elle joue trop. tu sais, elle faisait ça aussi dans Last of the Mohicans, qui est un des films que j'aime vraiment beaucoup, sauf pour elle. Donc, elle a comme gâché deux films que j'aime beaucoup, selon
c'est
moi.
C'est Michael Mann?
Michael Mann, Last of the Mohicans. Puis ça m'énerve parce que genre, j'étais sincère, là, j'ai commencé à écouter, puis j'étais comme, OK, au débat, et bien tout. Puis j'ai commencé, elle a commencé à m'énerver quand elle devient toute hystérique à la fin et tout. C'est comme...
Calme-toi, chouette.
Ah, je sais pas, elle m'énervait. Puis voilà. Mais bon. Donc, c'était la dent que j'avais contre 12 Monkeys à l'époque. Mais j'adorais ce film-là beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'adorais le jeu de Brad Pitt. J'en avais un souvenir assez important. Voilà.
Ouais, moi, je l'avais vu au cinéma aussi. Je me rappelle avoir aimé ça. J'avais le souvenir, j'avais trouvé ça confus à l'époque. C'est là où Brazil, je trouvais que Brazil était extrêmement maîtrisé. J'étais resté un peu sur ma... J'avais trouvé ça bon, mais j'avais comme un... J'ai le souvenir d'avoir eu ce feeling-là, tu sais, que comme quoi c'était confus, tu sais, moins maîtrisé et tout. Mais à le revoir, là, je l'ai revu il y a quelques jours, là. Et ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu, en fait. Je pense que je l'ai vu à l'époque, j'avais vu au cinéma, peut-être j'ai dû le voir une fois ou peut-être deux depuis. Et là, de le revoir, là, j'ai pas eu ce feeling-là. J'ai trouvé ça très bon, au contraire. Tu sais, je trouvais ça vraiment... Oui, ça part dans tous les sens, mais tu t'y retrouves. Tu te perds pas finalement dans ce dédale, dans ce chemin à travers le temps et tout ça. Je trouve que ça colle assez bien. Je trouve que dans le genre film de voyage dans le temps, ça fonctionne. Il rentre pas dans l'histoire de oui, mais si tu changes le cours de l'histoire, machin, de qu'est-ce qui va disparaître si ça. Tu sais, il rentre pas dans ce truc-là et je trouve ça bien en fait finalement. Il reste très sobre par rapport à la manière dont...
Mais parce que les gens du futur existent de toute façon.
Ouais.
Dès qu'ils reviennent dans le passé, ils deviennent une existence du futur. Mais c'est vrai que... Non, ça marche pas, c'est un paradoxe. Non, mais...
Il y a une erreur, d'ailleurs,
par rapport à ce paradoxe-là, quand le dude, à la fin, vient le voir puis qu'il donne un gun à l'aéroport. C'est que c'est un paradoxe qui en est pas un, parce que il se passe de quoi de nouveau qui n'existe pas quand il est dans le futur puis qui revient dans le passé, puis pourtant son souvenir est empreint de la même conséquence de tout ça, alors qu'il y a supposément quelque chose qui a changé. Donc le paradoxe existe quand même dans ce film-là.
Ouais.
Vous peut-être
non,
pas
il
suivi,
pas,
mais
il
le...
Il est
non,
pas parfait.
Pas
dans
pas
tous
parfait.
Les films de voyage dans le temps, il y a toujours un paradoxe.
Ouais,
on s'en sort jamais.
C'est juste que par définition, tu changes trop le futur pour que les choses... En tout cas, toi, Olivier, t'as vu le film quand avant qu'on rentre dans un sujet de conversation, parce qu'on va en reparler, parce qu'on entend. L'idée, c'est d'entamer une série dans le voyage dans le temps, donc je pense qu'on devrait en parler de ça.
J'ai pas de souvenir exact de la première fois que j'ai vu le film. C'est probablement pas au cinéma. Je me rappelle d'avoir vu un bout du film. Je sais pas si vous rappelez l'époque des cable box, avant qu'il existe les machines de Vidéotron, de câble HD, machin. Mm-hmm. Quand t'avais un cable box piraté, tu mettais une chip dedans, ça coûtait 200 pièces, tu pouvais avoir tous les postes, super écran, puis machin, puis tu pouvais crosser le câble. Puis je me rappelle d'être allé chez un ami qui avait ça chez eux, puis il y avait un bout de la fin du film, la séquence de flashback de l'aéroport qui arrête pas de revenir dans le film. Puis ça m'a vraiment marqué. Je sais pas si c'est la première fois que j'ai vu ce film-là, c'était là, ou avant ou après. Mais sinon, dans tous les cas, c'est probablement un VHS à la maison.
VHS, yeah.
J'ai une drôle histoire avec ce film-là, parce que autant que je l'ai aimé que je l'ai moins aimé, puis à chaque fois que je le regarde, j'ai pas la même opinion du film. J'aime ce film-là sincèrement, mais des fois quand je le regarde, je trouve qu'il perd de ses lettres de noblesse. Comme aujourd'hui, je l'ai regardé avant le podcast, puis je trouvais qu'il avait mal vieilli, pour plein de raisons. Puis je m'étais dit la même chose, il y a deux visionnements. Puis l'autre, entre les deux, non. Je sais pas, à chaque fois que je le regarde, j'ai une opinion différente. Je comprends pas.
Ah, c'est intéressant.
Ça a peut-être rapport avec ma copie Blu-ray que j'ai achetée il y a pas longtemps, qui est d'une qualité absolument pourrie. Fait que tu sens comme le mauvais transfert, puis tu sens comme l'âge, tu sais, d'un mauvais transfert où tout a l'air vieillot un peu, puis c'est pas sharp, c'est pas clean, ça fait très vite très victime. On dirait que les coupes de cheveux de l'époque ressortent plus. Je sais pas, il y a quelque chose qui...
Ah ouais, le Blu-ray.
Blu-ray, c'était épouvantable.
Je sais pas, moi j'ai vu... je l'ai vu en...
Je sais pas si c'est différentes éditions. Nous, j'ai l'édition très ordinaire. C'est pas cher. Là. Il y a peut-être une édition spéciale Criterion ou machin.
Aucune idée. J'ai pas investigué ça.
Mais celle que j'ai vu des DVD qui étaient plus beaux que ça. Ouais. Ça, c'était à ce point-là.
Ça, c'est un des problèmes avec le Blu-ray. Là. On dirait qu'ils se précipitent souvent pour...
Ils mettent des transferts qui ont été faits il y a 15 ans, qui ont pas vraiment révisé. Puis
ça dépend des films. Ça dessus, dépend. Bah, tu vois, tu veux dire, Brazil, il y a une édition Criterion, je pense, qui a fait une édition Blu-ray. Mm-hmm. Non, je me trompe.
Ça se peut, ça serait l'argent.
Oui, ils l'ont peut-être sorti, mais longtemps, je sais qu'il y avait l'édition DVD qui est super connue, ouais, avec trois disques. C'est une des plus belles éditions qu'ils ont jamais faites.
Ouais. Mais ouais, pour celui-là, je sais pas. En fait, j'ai pas investigué ce côté-là. Moi, j'ai trouvé une copie digitale, puis je suis allé avec ça. Elle était correcte. Ben, tu sens l'âge du film à travers le grain et tout ça, tu sais, les contrastes. Tu sens que ça a pas été. Tu sens qu'il y a pas eu une restauration.
Non, c'est un vieux téléciné sur des vieilles machines. Ouais.
Notamment la scène de l'asile de fous là au début. Mm-hmm. C'est très bon. Je pense que ça a été photographié de cette façon-là aussi, mais il y a un côté très laiteux dans la photo, tu sais, dans l'image. Que je sais pas si c'est voulu, si tu
moi, ça
tu veux aller chercher plus de contraste.
Moi, j'ai une version probablement la même que la tienne. En fait, tirée d'un DVD. Moi, je l'ai trouvé quelque part sur Internet.
Comme ça, par hasard.
Je pense que c'est une version DVD, d'ailleurs. Blu-ray. C'est ce qu'il disait.
Moi, c'est sur iTunes ou est-ce que c'est...
De la façon dont on en parle, c'est probablement le même transfert à différentes
probablement, sources. Probablement, oui. J'ai pas...
Mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose... c'est drôle, je vous écoute parler, puis... J'ai eu ce feeling-là aussi, mais j'ai moins d'intelligence dans mon articulation de la chose. Mais non, j'ai eu un feeling de... Mais justement, quand j'avais acheté le vin, tu sais, avec Miro, les couleurs, le côté un petit peu comme...
Flyé,
tu sais, on dirait qu'il est comme un peu... Puis ça parle beaucoup sur la qualité de la manière dont tu vois un film. Quand c'est un film, ben, c'est justement un film de science-fiction. Pourquoi la science-fiction marche autant au cinéma? C'est que quand t'es un vrai amateur de films de science-fiction, t'as un réel plaisir à aller voir la science-fiction. Mm-hmm. Ce genre de film-là, ça pourrait être intéressant. On aimerait ça les revoir au cinéma, tu sais.
Ouais, une belle copie, tu sais. Ouais. Quelque chose de spectaculaire, là.
C'est vrai.
Ouais. Le côté clean de la technique dans un film de sci-fi peut ajouter à l'immersion. Puis c'est ça, il te demande de rentrer dans une fantaisie, dans quelque chose de complètement flyé. Fait que si tu oublies la technique parce que c'est parfait, ça va, tu peux plus rentrer dedans. Mais si tu vois la technique constamment te revenir dans la face, des fois, ça te fait sortir un peu de l'expérience. Quand, tu sais, nous autres, on est cinéphiles, on est habitués, là, on en a vu d'autres, on en a vu des transferts, on fait des films. Fait que quand la qualité est un petit peu défaillante, ben, des fois, ça nous fait réagir, malheureusement. Il y a peut-être un peu de ça.
Moi, je peux dire, je rentre quand même dans l'histoire. Je suis une grande maniaque d'une histoire, donc une bonne histoire va me faire oublier la technique.
Non, je dis pas que la technique.
Si je commence à m'ennuyer,
mais ça peut nuire légèrement à l'expérience globale.
Ouais.
Est-ce que j'ai souvenir d'avoir comme pas aimé un film à cause que la technique était.
En tout cas, je sais qu'à l'époque, contrairement à toi, j'avais un crush sur Madeleine Stowe.
Moi, j'avais pas
de
crush
là-dessus. Je l'avais vu dans Stakeout, je l'avais vu dans Revenge, je l'avais vu dans quelques films comme
mais
ça.
Mais non, mais c'est une très belle femme, puis, elle avait un beau charisme.
Ah, dans Shortcuts. Super film de Robert Altman.
Et dans Shortcuts?
Oui. Ben, c'est un de ses films chorales.
Je sais, je me rappelle de Julianne Moore.
Avec un paquet de
Julianne de Moore dans Shortcuts.
Oui, oui, oui. Julianne Moore.
Il y a la fameuse scène de Julianne Moore.
La fameuse scène de Full Frontal de Julianne Moore.
Moi, je me rappelle.
Bon, mais je sais qu'est-ce que je regarde dans la maison.
Pour la qualité du film, il faut voir Shortcuts.
Shortcuts, c'est très, très bon.
C'est du grand Altman.
Moi, j'ai pas oublié Julianne Moore, mais pas juste pour cette scène-là.
Tiré de Raymond Carver? Si je me trompe pas d'histoire, je peux me tromper. Oh. Je lance un truc, je peux me tromper. Mais en tout cas, c'est tiré d'une série de nouvelles. Et sauf erreur, c'est de Raymond Carver. Mais je peux me tromper. Bref,
on n'a aucune idée, Nick. De toute façon, c'est pas nous qui allons
contredire. Shortcuts, excellent. Rien à voir avec la science-fiction.
Puis toi, le monkey. Revenons à toi, le monkey.
Mais ce qui est cool, par contre, avec ça, c'est que, sachant que le film est inspiré de La Jetée de Chris Marker, j'ai revu La Jetée de Chris Marker, que j'avais pas vu depuis au moins. Hey, si c'est pas plus.
Avant que t'en parles, on met-tu un extrait de La Jetée de Chris Marker?
Ah, oh, c'est gonflé.
allez, 10 secondes.
OK.
Il vit un homme sans passion qui lui expliqua posément que la race humaine était maintenant condamnée, que l'espace lui était fermé, que la seule liaison possible avec les moyens de survie passait par le temps. Un trou dans le temps, et peut-être y ferait-on passer des vivres, des médicaments, des sources d'énergie. Tel était le but des expériences, projeter dans le temps des émissaires, appeler le passé et l'avenir au secours du présent.
Donc, La jetée de Chris Marker, film qu'on a vu à l'école, tout le monde.
J'ai pas vu ça à l'école.
Non, toi, t'es.
C'est ça quand je travaillais à Boîte Noire.
Ah. C'est pareil.
Sur une édition Blue Criterion.
Ouais,
d'un
c'est pareil que l'école,
film.
C'est comme Tarantino.
Non, mais attends, moi Chris Marker, j'adore, hein, parce que tu sais que moi j'aime Antonioni, puis tous les films que de Fellini, Tarkovsky, des espèces de films de référence, voyons, de répertoire malade. Mais je trouve ça comme cute que 12 Monkeys est inspiré d'un film très intello, parce que c'est très intello, là, la jetée. Là. C'est un photoroman français de science-fiction avec une voix off.
Ouais, de Nouvelle Vague.
Un peu Nouvelle Vague et tout. Ben, un peu, je dirais pas si intello, il y a quelque chose d'expérimental. Non, de...
Moi, je trouve pas si intello que ça, justement. Je trouve très accessible, en fait. C'est-à-dire, oui, la manière dont il s'est présenté avec le commentaire et tout, c'est très Nouvelle Vague, genre. Le
mais je
dirais
pas
français,
si vous n'aimez pas les villes,
l'histoire d'un homme,
si vous n'aimez pas la campagne, allez vous faire foutre.
J'aurais dû faire l'intro du show quand même. Ce soir, 24 quoi, secondes, nous parlons d'un film.
Non, allez vous faire foutre.
C'est drôle parce que je viens de voir, tu sais, l'autre jour, je ne sais plus si c'était sur Twitter ou Facebook, tu parlais de Louis, que tu as découvert la série
Louis
C.K., dont je suis un fan.
Tellement
je suis un énorme fan de ce mec.
Ben oui.
C'est
vraiment excellent.
Et dans un des derniers épisodes de la nouvelle saison, dans Louis, il fait une joke avec un film de la Nouvelle Vague. Enfin, c'est très drôle, quoi. Il a parodié une scène typique de film de Nouvelle Vague.
Je suis rendu à la dernière, la saison 4.
Un cliché, oh, déjà?
Oui, je suis rendu. Bien sûr, tu me connais. Moi, quand je commence une télésérie, je la comme.
T'as bingé jusqu'au bout.
Oui, mais surtout ça.
Elle dort plus la nuit, c'est pour ça qu'elle fait
ça. Non, mais surtout ça, j'essaie de faire attention de pas binger des téléséries, là, juste pour binger n'importe quoi. Mais quand tu tombes sur quelque chose comme, je sais pas, True Detective, Louis, Tu peux pas comme juste écouter un épisode. Là,
Louis, t'sais? C'est génial.
Non, ces affaires, t'en écoutes au moins trois d'une shot.
C'est bien, ça. Tu vas rattraper le.
Là, Geneviève Fimon est sur Fringe. D'ailleurs, il faudrait le mettre à l'agenda dans 24 Quarks.
Il va falloir l'écouter. Fringe. Là, moi, je l'ai pas écouté.
Moi, c'est ma deuxième écoute de Fringe. Je suis très potent.
Je crois que j'ai vu le pilote. C'est tout ce que j'ai vu de Fringe. Et je l'ai mis dans la liste. Mais voilà.
Vous allez triper.
On est parti de la jetée de Chris Marker à Fringe.
Faut qu'on fasse. Tu sais, dans les show notes, c'est sur la page du site, sur la page du podcast. Faut qu'on mette toutes les références qu'on fait à chaque épisode. Parce que, tu sais, parfois, on diverge tellement, mais ça peut être intéressant d'avoir, tu sais, faut qu'on fasse des liens avec tout ce qu'on a parlé.
Il faudrait faire un avertissement. Bonjour, les trois animateurs de ce podcast sont victimes d'un trouble de déficit d'attention et changent de sujet constamment.
C'est pour ça qu'on s'entend bien, on parle à tous les sens après ça. Mais moi, je veux qu'on vienne à la jetée.
C'est ça qui est fun avec les conversations, tu sais, une conversation libre, c'est ça qu'on aime.
Alors, toi, quand tu as vu la jetée pour la première fois?
Ah, la jetée, moi, j'ai vu ça, oui, c'est ça, c'était sur une édition spéciale d'un DVD, je ne sais plus trop, en tout cas, j'ai trouvé ça à la boîte. Non, j'avais vu Dos Singes déjà à cette époque-là, je pense que c'est il y a 10 ans, il y a en 2004, je pense que c'est un film que j'écoutais aux 3 mois. Trois Monkeys.
Ah ouais, okay.
Quand j'ai vu la jetée, j'ai appris le jour même que c'était adapté de ce que vous venez de dire. Puis là, je fais oh mon Dieu, ça existe, je veux le louer, je l'écoute le soir même. J'étais vraiment agréablement surpris, puis je savais pas à quoi m'attendre. C'est super surprenant, un photoroman de science-fiction français. Ouais. C'est comment ils ont fait pour faire un truc comme ça? On essaierait de faire un film de même aujourd'hui, ça passerait pas.
Mais Chris Marker, il a énormément de talent, là. Je veux dire, comme pour écouter, moi, j'ai écouté le Sans Soleil, que c'est le film qui se passe au Japon puis en Afrique, tu sais, puis il parle puis il raconte. C'est une femme ou un gars qui écrit une lettre à son amant, tu sais.
Je me rappelle, je l'ai vu il y a très longtemps.
Je pense que c'est une femme qui écrit une lettre à son amant puis c'est comme genre, elle lit ça puis les images, c'est du Japon. Des années 80, puis de l'Afrique, puis tu sais, comme ça passe dans l'autre, puis t'écoutes ça, puis t'es comme captivé par l'histoire, mais ça a pas de bon sens, tu sais, il y a rien, il y a pas comme, tu sais, c'est comme, voyons, le lien, là, puis il faut avoir énormément de talent, je pense pas être capable de faire des choses comme ça, tu sais, des fois, je vois du monde qui parle, je vais faire un film expérimental, surréaliste, abstrait, puis c'est comme genre, fort à rire, c'est comme bonne chance. Tu t'appelles-tu David Lynch, t'appelles-tu Buñuel? Non, c'est les deux qui ont été capables de le pouler, puis quand tu regardes un truc Chris Marker, il y a énormément de talent. Donc,
bon,
oui.
Guy Madden aussi a été capable de le pouler.
Qui c'est?
Guy Madden, réalisateur de Winnipeg. C'est ça, hein? Les cinéastes canadiens-anglais puis canadiens-français, ça se parle pas, ça se connaît pas, hein?
Ça colle pas.
Non. C'est le rock versus le...
Vous avez entendu un grand silence dans le cerveau de Marie-Louise? Quoi?
On en reparlera. Excuse-moi de la sci-fi, ce qu'il fait aussi, lui, bon. Puis Matthew Rankin, là, c'est deux Winnipegois qui ont pris beaucoup trop
on devrait se faire un spécial science-fiction canadienne-anglaise. Ah. Alors, on va écouter Last
Night.
Cube, C'est vrai qu'on a fait Cube. Ah, on a quand même.
Il y en a d'autres.
Il y a Last Night qui était vraiment bon. De Don McKellar.
James Cameron est canadien.
Ouais.
Puis, on a fait The Fly aussi, je vous ferai remarquer. Mais ouais, c'est pas canadien, mais il y a d'autres Cronenberg qu'on pourrait faire.
C'est trois premiers films.
Puis c'était The Fly, c'était américain, non?
Coproduction.
C'est une coprod, mais je veux dire, c'était pas tourné au Canada en plus?
Probablement tourné en Ontario.
Ouais. Ouais. Bon, faut qu'on se fasse Scanners et tout ça, là. je le trouve super accessible, moi, ce film, l'acheter, finalement. C'est pas, tu sais, c'est pas un de ces films de nouvelle vague, prise de tronche, tu sais. Il y a un truc très accessible, quoi.
Ouais.
C'est court, c'est,
ben, c'est court, straight to the point.
Non, mais. Curieusement, pour un film de nouvelle vague, ça va droit au but. Enfin, je veux dire, c'est très. Il boucle sa boucle à la fin, ça reste pas sur un truc abstrait, machin.
Mais revenons au truc, c'est que l'histoire dans La Jetée est extraordinaire et c'est l'histoire de 12 Monkeys. C'est une histoire extraordinaire. C'est un gars qui voit sa propre mort.
Ouais.
Tu sais. Puis tout le long du film, c'est parsemé dans. Je me rappelle pas dans La Jetée, mais dans 12 Monkeys, j'ai toujours trouvé super belles les scènes de flashback parce qu'elles sont. À la fois, c'est des rêves, à la fois, c'est onirique, puis il n'y a pas de parole, il n'y a pas d'explication. Moi, les flashbacks, où est-ce que ça parle, tu sais? C'est comme ça m'énerve un peu.
Il fait un flashback qui nous réserve des surprises jusqu'à la fin. C'est ça la qualité.
Puis c'est un flash forward en même temps. C'est un flashback et un flash forward.
Ça, c'est super intéressant. Ça, c'est super intéressant.
C'est cool.
Puis il joue sur tout le côté. Je crois que ça intervient à plusieurs instances dans le film, ça. Le fait que la mémoire te joue des tours aussi. Tu sais, les flashbacks sont jamais les mêmes. Tu sais, c'est jamais exactement la même chose. Il y a des petits changements à chaque fois.
Puis des fois, on reconnaît des visages en tant que spectateur en le regardant. T'sais, on voit le visage de Madeleine Stowe, on voit le visage du Roux, on voit le visage de.
Mais on voit le visage de Brad Pitt. La place de celui de Morse, David.
De David Morse, oui.
Fait que dans le fond, tu sens sans qu'il y ait de. Il va pas le soutenir au niveau de la narration, mais sans qu'il commence à faire des associations, mais il est pas sûr, genre.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que j'ai vraiment reconnu la même personne qu'il y avait dans mon rêve depuis que je suis tout petit, ou c'est mon imagination qui me joue des tours, puis je joue avec ça tout le long, parce que même la voix qui parle, tout le long du film, t'es jamais sûr si c'est un film. Puis la voix elle-même se déclare, genre, tu sauras jamais si je suis le prisonnier à côté, tu sauras jamais si je travaille pour les scientifiques, ou tu sauras jamais si je suis un figment de ton imagination.
Ils disent pas.
Ils disent pas. Fait que toutes les théories sont possibles. Moi, j'ai la mienne. Mais c'est cool, hein, tabarnouche.
J'adorais ça parce que
c'est ça, le flashback marche sur le même principe que la voix jusqu'à un certain point, là.
Ouais, c'est vrai.
C'est faire douter le personnage principal.
Ben oui, puis il y a une scène à un moment donné qui dit c'est pas arrivé, je suis fou, tu sais.
Il veut y croire qu'il est fou parce que c'est trop pour lui.
Mais c'est ça que j'ai trouvé super à le revoir là. C'est tout cet aspect-là que j'ai trouvé intéressant, que j'avais peut-être moins capté à l'époque, tu sais. J'étais moins rentré dans ce détail-là. J'avais plus le film dans son entièreté, puis je le voyais comme un film. T'sais. Donc c'est peut-être ça qui m'avait paru confus, etc., etc. Alors que là, j'ai trouvé plein de choses intéressantes.
Puis je trouve qu'à le revoir, on porte plus attention au personnage de Cole, parce que moi, à l'époque, j'avais porté beaucoup d'attention au personnage de Brad Pitt, en attendant une sorte de suspense, parce qu'il nous le présente comme étant la clé.
C'est parce que tu le trouvais beau. Même avec ses yeux
Non. J'ai toujours trouvé Brad Pitt beau, mais j'ai jamais été une fan. Ben, comme genre, si vous voulez coucher avec moi, je dirais quand même pas non, là.
Même moi, je suis pas sûr que je me.
Quand même, à un moment donné, des expériences à vivre dans la vie. Et on fera d'ailleurs un podcast sur la liste des acteurs avec qui on coucherait.
Les acteurs et actrices. Merci.
Acteurs, si vous préférez.
Actors.
Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a un mystère qui était d'appui par rapport à Brad Pitt, mais c'est une fausse piste tout le long. Puis on se rend compte juste à la fin que lui, il n'a rien à voir.
Comme dans Fight Club.
Non, dans Fight Club, c'est pas une fausse piste. C'est carrément une vraie fausse piste. Tu portes beaucoup d'attention à un personnage qui, dans le fond, est complètement inoffensif.
Le titre du film t'envoie dans une direction complètement différente.
Oui, c'est ça.
Parce que tout le futur au complet est sûr de son coup, alors qu'ils se mettent le doigt dans l'œil.
Ouais.
Puis il y a un dude... En l'occurrence, Cole, qui est le plus fou de la gang, on dirait quasiment, quoi, qui en sont tous fous, qui finit par s'en rendre compte. Hey, man, c'est un bordel, le futur, là. C'est comme une personne qui est sain d'esprit là-dedans.
Dans
là.
Les scènes du futur, t'es complètement dans une autre réalité. T'es dans une réalité psychotique, justement. T'as l'impression d'être dans un monde de fous.
C'est moi qui ai halluciné où la réalité du futur, la façon qu'il l'a mis en scène, la DA et tout ça, ça me fait tellement penser à Jean-Pierre Jeunet, surtout ses premiers films.
Mais Jeunet était inspiré de Brazil.
Ouais.
Ah ouais.
Ben
ouais.
Oui, Jeunet, il a été hyper inspiré.
Ces deux-là, ils s'auto-inspirent parce que les premiers films de Jeunet, c'est mettons, tu regardes La Cité des Enfants Perdus. Puis...
Mais ça, c'est après Brazil, ça. C'est inspiré direct de Brazil.
C'est avant Dos Singes.
Je sais, mais je pense que.
Ils sont tellement interreliés, ces univers-là, ouais, ça n'a pas de sens. Là. Ouais, on dirait que c'est la même direction artistique puis la même univers de déjanté de Réal qui imaginait ça.
Mais tu sais que, ouais.
C'est en faire une petite recherche de DA.
Mais c'est ça que.
C'est sûr que Guillaume a commencé avant, ça, oui.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la DA, toutes les scènes du futur sont décorées, enfin, toutes les props sous le décor et tout, est fait avec des choses
du passé.
Du passé.
C'est un
petit côté cyberpunk.
Du très, très, très vieux pour avoir rien à voir avec l'époque de 95.
Mais 95. C'est normal, parce que si l'humanité a presque cessé d'exister, les avancements technologiques,
c'est ça.
Ouais, c'est
à un moment donné, ça arrête, là. Fait qu'ils sont obligés de récupérer de la tech.
Mais en même temps, tu sens que la technologie a complètement déconnecté les humains aussi, finalement, entre eux. Tu sais, ils se parlent par écran interposé.
Lui, sur un siège.
Ouais, 25 à 6 mètres de haut, là. Ouais, ouais. Et puis,
avec une machine pleine de TV, avec des gros plans d'yeux dans la face.
Ah, ouais, c'est que, comme complètement weird.
C'est entre un bad trip d'héroïne, puis une déconnexion de la réalité.
Exactement. Il y en a qui soutiennent d'ailleurs que, il y a des théories qui soutiennent comme quoi tout le film, c'est du délire psychotique de, enfin, en tout cas, tout ce qui est dans le futur ou quoi, c'est du délire psychotique de Willis.
Un petit commentaire sur La Cité des Enfants Perdus était tournée en même temps.
En même temps?
Ben, c'est 95, les deux. Donc, en fait, je pense que c'est un truc de l'époque.
Vraiment, seulement plus petit dans La Cité des Enfants Perdus, c'est fucking.
Puis c'est pas le même directeur artistique, je regardais.
Mais non, mais non,
là.
C'est Caro dans La Cité des Enfants Perdus, c'est à l'époque où il était deux, là,
ouais.
Avant qu'ils divorcent.
Mais bref, il y avait comme une influence de l'époque aussi. Je pense qu'il y a eu une mode un peu style cyberpunk, probablement.
Ouais, c'est le début, en fait, parce que ça a continué longtemps après, puis c'est devenu autre chose.
Oui, il avait déjà
qui ont vraiment surfé là-dessus.
Le cyberpunk?
Ouais.
Non, le cyberpunk, on peut dire que Blade Runner, ça serait comme dans les premiers films. Là, on parle vraiment de la... le cyberpunk, c'est plus le post-apocalyptique, sans nature. Brazil est un super exemple du cyberpunk. C'est vraiment le monde vit dans une urbanité où la nature est complètement absente. Puis dans Brazil, ils rêvent de la nature. Tu sais, le film Dark City, c'est ça aussi, c'est du cyberpunk à l'état pur.
Ça, c'est bon. Je voudrais peut-être le faire. Là,
il est dans notre liste.
Il est dans notre liste, t'inquiète pas. Puis donc bref, c'est sûr que Twelve Monkeys fait partie du cyberpunk dans le côté futur.
Oui, il avait déjà commencé ça avec Brazil, hein, son côté. Années 50 futuristes.
Ça, c'est du steampunk.
Non, c'est pas du steampunk, c'est pas tout à fait pareil.
Oui, oui, c'est considéré Brazil et le film qui a inspiré le mouvement steampunk. C'est considéré.
Le mouvement steampunk,
t'es sûr?
Bon, ok, je vais aller faire une recherche.
C'est une grosse déclaration.
C'est une très grosse déclaration. J'ai eu un doute.
Attention, la Marie-Louise. Qui existe aujourd'hui est vraiment loin de.
Mais ça fait partie des référents.
D'abord.
Parce que dans le steampunk, t'as le American West, le fantasy horror, t'as le post-apocalyptique, t'as le Victorian, t'as l'alternative world. Là. Ça, c'est comme genre des variantes. Mmh,
Ben alors, à ce moment-là, c'est
le steampunk, c'est de prendre l'époque de Jules Verne, si tu veux, puis d'écrire une science-fiction comme si Jules Verne avait...
On le fait
comme Jules Verne l'aurait fait. C'est un peu ça, steampunk. Brazil fonctionne dans ce sens-là, dans le sens qu'il se met dans une époque un peu années 50 et fait, ben oui, avec les gros tubes et tout.
Moi, je vois ça plus comme du cyberpunk, hein, quand même.
Ben non, c'est les deux. Plus... C'est les deux.
C'est pas
contradictoire du tout.
Les deux, d'accord.
Il n'y a aucune contradiction. Le cyberpunk peut être fait en steampunk.
Oui, alors ça se situe entre les deux, quoi.
Oui, parce que
vous grattez des petits bobos. OK, mention spéciale dans Twelve Monkeys, ce que je voulais dire. Vous allez tous être d'accord, évidemment.
Je peux dire que sur Wikipédia, ils disent que Brazil fait partie des précurseurs.
Bon.
Et une importante...
T'as raison, Marie-Louise. Bravo!
Une évidence, c'est malheureux. Non, c'est parce que je lis Wikipédia régulièrement, moi.
Première le dictionnaire.
Tous les matins, je lis Wikipédia.
À quelle page j'ai Wikipédia?
Je mange un yogourt avec des probiotiques.
Ah non, pas non.
Après,
non,
je vais
non,
faire
non.
mon jogging.
Moi, je mange du beurre de pomme. Vous mélangez, là. Probiotiques, je crois pas.
Donc, vas-y, alors, tous les matins.
Deux choses dans le film particulièrement que je trouve qu'il a faites d'une main de maître. Toutes les scènes qui se passent à l'asile. Pour l'ensemble de ce que ça représente.
C'est extraordinaire.
Je pense que tout le monde va être d'accord. Il y a des hauts et des bas dans ce film-là, mais tout ce qui se passe à l'asile, c'est,
c'est énorme.
À se péter la tête ses mains. Ce qui m'amène à la deuxième chose, la performance des acteurs, surtout celle de Brad Pitt, mais aussi celle de
Bruce Willis. Il est excellent, Bruce Willis, dans ce film-là.
Brad Pitt et puis en plus, ce que ma blonde me disait tantôt, c'est que moi, j'avais pas réalisé que c'est que Brad Pitt, avant ce film-là, il faisait Légende d'automne puis des cute guys. Puis c'est un peu comme peut-être créé, c'est peut-être là qu'il y a eu un pivot dans sa carrière.
Si t'avais lu les trivia,
tu saurais qu'il
avait signé pour faire 12 Monkeys avant trois films qui l'ont fucking mis sur la map, ben, qui sont Seven.
Seven, c'était le troisième. Mais il y a eu Legends of the Fall.
Legends of the Fall, c'était le cute guy. Là. Il n'était pas dans des rôles un peu trash.
Mais Seven, il était...
Seven. Okay, c'est lequel le film, le premier, qui l'a changé du beau petit garçon que toutes les filles trippent vers l'acteur glauque qu'on... extraordinaire qu'on connaît, tu sais.
Ouais, ben,
il y a un switch à un moment donné.
Il y a 12 Monkeys. Ben, même dans Seven, je veux dire.
Seven, 12 Monkeys, c'est quoi, c'est là?
Ouais, je veux dire, dans Seven, ok. Seven,
il est ben, California.
California, mais c'est. Ah, oh, mais mon Dieu.
Il était bien tordu dans
California. Il faisait un petit weirdo tueur en série, pas intelligent, là. Il était vraiment.
Une espèce de redneck dangereux, là,
ouais. Ça fait longtemps, je pense. Avec Juliette Lewis.
Avec Juliette Lewis, ouais.
Oui.
Et David
Interview with the Vampire, c'est ça qu'il avait mis, sur la map aussi.
Ah mon Dieu.
Ça l'a mis sur la map comme le cute guy.
Ça fait que Geneviève a tort.
Ben, Interview with the Vampire, je m'excuse, il faisait un cute guy, là.
Oui, mais il y avait un côté mean, pareil. Là.
Non, ça, c'est Tom Cruise qui faisait le mean. Dans Interview with the Vampire, c'est le vampire
Le stats, c'est Tom Cruise.
Ah, oui, c'est vrai.
C'est le vampire vraiment plate, là, tu sais, genre qui mange des rats.
Là, il est pédophile aussi, là, on s'entend.
Non.
Mais
non!
Ce film, je l'ai pas vu depuis tellement longtemps. Ah,
attends, non, mais c'est une métaphore.
Je l'avais pas vu, puis j'ai l'esprit croche pourtant. Là. Il était dans Thelma et Louise. Il faisait quoi dans Thelma et Louise?
Ah, ben là, il était le cute guy. Mais là, il était vraiment le petit rôle secondaire. Là, ouais, là, c'est le cute guy qui, tout à coup, est pris en stop par les filles, puis il détrousse. Comment elle s'appelle? Gina Davis après se l'être tapée.
J'ai jamais vu Thelma et Louise, je sais.
T'as jamais vu Thelma et Louise?
À moi, je sais.
Quoi?
Je sais.
Ah, il faut voir Thelma et Louise.
Ouais, c'est vraiment un film à voir, je pense. Il y a quelque chose de classique dans ce film. Puis il y a plein de références à Thelma et Louise tellement partout.
Je sais, je les vois tout le temps. Mais je sais jamais c'est quoi la scène originale.
Pour moi, c'est un film d'auteur, Thelma et Louise.
Ben oui.
Ouais. C'est ça, c'est Tony Ridley, ça.
C'est Ridley.
C'est Ridley.
Non, c'est magnifique. Magnifique.
Puis, revenons à 12 Monkeys, justement.
Bon, et 12 Monkeys, quand même, écrit par le scénariste de Blade Runner, quand même.
Oh!
Lequel?
David Peoples.
Le premier
David
ou Peoples. Le deuxième? Parce qu'il y en a eu deux sur Blade Runner, là. J'ai lu ton livre. Ben oui, j'ai lu ton livre.
Oui, OK. Non, ben celui qui est... Ben, l'officier... Non, je veux dire, il est quand même... Attends, oui, il y en a deux.
Il y en a deux importants. Il y a celui-là qui avait écrit le premier scénario qui était, paraît-il, fucking bon. Ben, puis après ça, les producteurs ont forcé à en écrire un autre. Le gars, il a pris le scénario, puis il a fait « c'est bien trop bon, je peux rien changer à ce scénario-là ben, ». Puis il était obligé de le faire parce qu'il était quand même payé pour faire quelque chose. Attends. C'est lequel?
En tout cas...
Super bon, le livre sur Blade Runner. Je vous le conseille, tout le monde. Vraiment bon.
Mais c'est quoi le film qu'on a vu, finalement? C'est-tu le scénario qui était fucking trop bon?
Non, c'est l'autre après. L'histoire de Blade Runner, c'est tellement fascinant parce que ça te fait voir comment faire un film peut être souffrant, compliqué, puis il n'y a rien de bon. Ce film-là, là, il est passé de... Le scénario, ça a été une histoire de fou. Le réalisateur, les acteurs saillissaient, là, genre Harrison Ford, puis...
Non, il y en a deux. Il y a Hampton French... Il y a Hampton Fancher... Hampton Fincher et David Peoples.
Hein?
Hampton Fincher et David Peoples, c'est les deux scénaristes de Blade Runner. Là, je regarde pas l'histoire, là, c'est les deux qui sont crédités au scénario de Blade Runner.
OK.
OK. Mais ce qui est bizarre, c'est que David Peoples, c'est un mec très inégal, finalement, parce que quand tu regardes son pédigré, alors il y a des chefs-d'œuvre comme Blade Runner, comme Unforgiven.
Unforgiven, c'est bon.
Et puis des trucs fun comme Lady Hawk. Et puis, t'as des merdes comme Léviathan, comme Soldier. Excuse-moi, toi, t'aimes Soldier,
oh,
mais
attends,
même, je n'aime pas ce film.
C'est lui qui est Soldier, mais attends, moi, c'est un de mes films préférés.
Film de Roland Emmerich.
Non. Paul W.S. Anderson.
Ah non, excuse-moi, un autre.
Si vous n'avez pas aimé ça, c'est tacheron. Probablement à cause de Paul W.S. Anderson. Non, pas à cause du scénario.
Un autre tacheron.
Je n'ai point vu. Ça manque à ma culture.
Voilà. Soldier, c'est une autre histoire. C'est que Paul W.S. Anderson, il a décidé de faire un avis de série B avec le plus gros budget qu'il pouvait, et il a réussi son pari.
Donc, il y a un quatrième niveau que tu n'as pas vu.
Non, il y a un deuxième niveau. Le premier niveau, c'est une belle histoire, mais qu'il a scrappé intentionnellement pour faire un gros film de série B à 60 millions avec Kurt Russell. C'est extraordinaire, c'est un exercice de style. C'est super assumé.
Je sais pas si je peux soutenir.
Tu peux pas juste voir ce film-là au premier niveau et dire « c'est bon, c'est impossible ». Même moi, je peux pas te dire. Mais il t'embarque tellement dans une folie démesurée de je fais n'importe quoi, mais j'ai tous les moyens à ma disposition pour le faire, que là, ça devient jouissif. Il faut le voir au deuxième niveau. C'est une niaiserie monumentale.
Parfait.
Et ça, c'est un autre. Paul W. Anderson qui fait un film sur deux qui est bon, puis l'autre qui est très mauvais.
Il est dans notre liste. Hein, on n'est pas obligé de faire que des bons films, on le sait.
Ah oui, ouais. On en a fait quand même une coupe, on s'est forcé.
Ouais, ouais, ouais. Mais en, fait, ouais, en tout cas, mais bon, David Peoples, Blade Runner, quand même, c'est pas n'importe
quoi. Et pourquoi on est rendu à Blade Runner? Dans le fond, on parlait de 12 Monkeys, je pense.
On parlait de 12 Monkeys.
Oui, c'est lui parce qu'il a écrit 12 Monkeys aussi.
Oui, voilà. C'est pour ça que j'ai fait allusion à lui.
Mais l'histoire part de la jetée. Puis, il y a quelqu'un quand même écrit le scénario. Mais le scénario, j'aimerais ça parler de scénario parce qu'il est quand même très complexe, puis pas pire, ce scénario-là. Il part avec les histoires de nouvelles qui servent à situer le temps. Tu sais, l'histoire du petit gars qui est dans un puits puis qui va être un reveal.
Mais...
Puis il y a plein d'autres nouvelles, en fait. Il y a la nouvelle, ben, évidemment, la nouvelle que la fille a été enlevée. Puis là, il y a des histoires de singes avec une caméra. Il y a plein de petites bébelles qui sont... Ouais. Puis qui sont, en fait, liées avec l'obsession. Toute l'obsession du personnage de Brad Pitt, j'ai oublié son nom, passe par plein de nouvelles à la TV.
Jeffrey Goins.
C'est ça. Goins, oui. Puis c'est tout le côté... C'est tout le côté, genre, on veut sauver les animaux, qui passe beaucoup
super,
par les médias.
C'est super une belle mission, en plus, de sauver les animaux, mais
la fin est
complètement
extraordinaire. Oui, mais la fin est extraordinaire avec le zoo, qui ont comme libéré tous les animaux. C'est une super belle fin,
c'est poétique.
C'est l'Arche de Noé avant la déluge.
Ouais,
c'est vraiment ça. Il y a plein de symboliques. Il y en a beaucoup de symboliques, d'ailleurs, religieuses. Les 12 petits trucs.
Ben, les 12 singes, les 12 apôtres.
Non, mais le petit case dans lequel ils se transportent. Encore là, j'ai lu ça dans les trivia.
Les petites fioles de virus.
Ça représenterait un texte de la Bible qui parle... pas l'Apocalypse, mais un autre texte qui parle...
C'est quoi les 12... Ça contient la colère de Dieu, un truc comme ça.
Quelque chose du genre. The Wrath of God.
The Wrath of God.
Donc, il y a plein de choses dans ce film-là. C'est rempli de petits détails partout. On voit la référence à Hitchcock. Puis j'adore ça. Ils s'en vont dans un théâtre où est-ce qu'ils jouent non-stop plein de films d'Hitchcock. Donc, t'as Vertigo, t'as les... ils se réveillent sur The Birds à un moment donné.
Il a fait la shot de...
De la jetée,
parce que...
Hein?
La shot de Vertigo,
ben,
il l'a fait au début quand... La première fois que Madeleine Stowe rencontre... comment il s'appelle?
Cole.
James Cole.
Ils font le mouvement, mais d'une façon un peu bizarre. Il fait le plan Vertigo.
Il fait un plan Vertigo.
Puis
il y a le lien à la fin aussi.
Mais ça, c'est bien quand tu ne marques pas un plan Vertigo. C'est un très bon plan Vertigo.
Normalement,
quand tu l'as
de te le montrer dans ta face, c'est comme voici, j'ai fait le plan Vertigo.
Scorsese, il en a fait un.
Mais sinon,
il
y a des liens avec le film à la fin quand elle sort en blonde. Tu sais, quand elle apparaît en blonde. Ça fait le lien avec Kim Novak dans Vertigo.
Mais toutes les héroïnes hitchcockiennes
qui est changée, puis qui sort sur un fond vert, machin, etc.
C'est ça, oui.
Donc, il y a plein de liens. Et puis, c'est la séquence aussi à laquelle fait référence la jetée.
Bien sûr, c'est la fameuse arbre. Je suis morte. Je suis née ici, je meurs là. Ouais, elle meurt avant que l'arbre soit coupé. Ça fit comme Il y a une idée de voyage dans le temps.
Donc c'est ça. Donc là, tout le lien est fait.
Moi, je trouve que c'est un scénario qui est extrêmement riche. Je ne sais pas à quel point il y a du réalisateur qui a comme pris un scénario puis qui est allé ajouter des éléments comme les trucs de nouvelles. Ça devait faire partie du scénario, tu sais, de la manière de raconter l'histoire. Ce qui rend un scénario vraiment bon, c'est souvent une façon de raconter plusieurs histoires en même temps que tu racontes ta trame principale. T'sais, donc, tu as le personnage qui, lui, a sa mission, mais à travers ça, tu as l'histoire du petit gars qui est dans la pluie. Elle fait partie du scénario. Tu as l'histoire du gars qui est obsédé par sauver les animaux avec sa gang d'amis. Elle fait partie du scénario. Tu as même l'histoire de la psychiatre qui fait des conférences post-apocalyptiques, qui est obsédée par l'apocalypse. Tu as l'histoire du gars dans le laboratoire de microbiologie qui, lui, s'accroche à cette trame narrative-là en disant qu'il faut tuer le monde. Donc, je trouve que c'est vraiment un scénario superbe.
On se fait un petit extrait?
Allez, c'est
ça. Torture expands. We're all monkeys. They hurt you. Not as bad as what they're doing to the Easter Bunny. Look at them. They're just asking for it. Animals inside the lab are fed and held. Maybe the human race deserves to be wiped out. Wiping out the human race? Great idea. It's great. But more of a long-term thing. First, we have to focus on more immediate goals. I didn't say a word about you know what. What are you talking about? Your plan. Emancipation.
Et maintenant, la musique.
Ah, bah oui. Ça, c'est le truc qui te reste Vraiment, tu sais, juste avant qu'on commence, là, tu disais, ouais, c'est le truc que je me, dont je me, que j'avais le plus aimé. Tu me disais que c'était le truc que tu avais le plus aimé.
Ben, c'est vrai, ouais, ouais, la musique.
C'est qui a fait la musique?
C'est Paul Buckmaster, si je ne me trompe pas.
Buckmaster.
C'est pas Astor Piazzolla.
Redneck qui a de la
gueule. Paul Buckmaster, un nom comme ça. Si je me trompe pas, oui, c'est ça.
Oui, la toune de générique est complètement épique. Là. C'est le genre d'affaire que tu l'entends une fois, ça te rentre dans la tête pendant une semaine.
C'est
là.
Fou, quoi. Déjà, c'est un choix, je trouve, super gonflé.
Oui, parce que c'est précisément de la musique de gitan, je sais
ben,
pas.
C'est du tango.
C'est quand même, ouais, c'est...
Puis dans un film américain, ça te donne tout de suite un autre feeling, tu sais, ça t'amène c'est ailleurs un... que...
Puis ce qui est extraordinaire,
c'est... Terry Gilliam, il est british. C'est donc vrai. Lui, il est c'est peut-être vrai. Plus proche de cette sensibilité.
Mais ce que je dirais, c'est que c'est du tango. Ouais, le tango, ça reste argentin. Puis c'est latin, mais c'est du tango qui est utilisé différemment. T'sais, c'est comme, on a dit, il n'y a rien de... On est en Argentine, on est dans... C'est peut-être une manière de... Ça amène tout de suite une espèce d'émotion.
Il n'y a rien de sexy dans ce tango-là.
Non.
Non, parce qu'à chaque fois, qu'il, chaud, hein. À chaque fois que le tango apparaît, c'est vraiment pour l'action. C'est comme un tango qui amène l'action. C'est
donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'utiliser la musique en contre-emploi.
Ben...
Comme d'autres réalisateurs ont essayé de le faire, mais à l'époque, c'était quand même relativement nouveau de faire ça. Fait que d'utiliser du tango pour créer du suspense ou du mystère ou de l'action.
L'action, c'est bon, c'est comme
ça. Ça marche au fond, là, ce qu'ils
ont oui.
fait. Mais est-ce que ça a déjà été fait avant ou après? C'est pas sûr qu'il y a grand monde qui ont tenté ça.
Je sais pas, en tout cas, c'est un truc qui m'avait vraiment marqué comme toi, là. C'est un truc qui m'avait marqué par rapport à
ça. Parce que ça marchait au bout, tu rentrais, ouais. Tu y pensais pas du tout. Puis
c'était super original.
Quel autre film se sert d'une musique qui n'est pas supposée être...
Ben, There Will Be Blood, si tu veux l'exemple numéro un d'une musique complètement contre-emploi avec ce qui se passe dans le film. Là. Puis j'en parlerai pas plus. Allez réécouter le film, puis pensez juste à la musique. Là, puis ça va vous transporter...
Ben,
le trois quarts de la qualité du film, la musique a beaucoup... Ben non, okay, on s'entend que les acteurs sont formidables, le scénario aussi, mais la musique rajoute une couche... complètement... le cerveau veut exploser, là. C'est le même principe que ça.
Il y a les maîtres de la musique que sont Scorsese, Tarantino, d'aller chercher des tunes populaires puis de les mettre, tu sais, je veux dire, comme...
Ça, c'est pas tant un contre-emploi,
mais,
général.
Ben, je veux dire,
c'est plutôt de repopulariser
dans
les tunes.
Dans Goodfellas, la scène où est-ce qu'ils trouvent les cadavres sur l'espèce de petite tune qui est comme presque joyeuse, là, qui a un petit côté... tout ordinaire, là. Moi, je trouve ça pas mal en contre-emploi, là.
Il y a une série, là, dont j'ai parlé plusieurs fois, qui s'appelle Helix. Une série, je pense que c'est une série sur sci-fi, dans laquelle ils utilisent la musique de façon très, très particulière aussi. Ils ont des espèces de tune-keten comme ça sur des scènes horribles.
Oui.
Mais c'est une autre,
des scènes super tendues, c'est vraiment très, très étrange.
Lars von Trier, il commence à expérimenter beaucoup avec ça, surtout dans Nymphomaniacs, surtout la scène d'ouverture du premier, du volume 1. Si vous l'avez pas vu encore, regardez juste les 10 premières minutes, si vous voulez voir qu'est-ce que de la musique.
Si vous ne l'avez pas vu, c'est même pas,
c'est
pas grave. Pas,
c'est genre, la musique est tellement exagérée par rapport à ce qui se passe à l'écran que ça crée quelque chose que tu n'aurais pas imaginé. On n'est pas loin du contre-emploi.
Mais je ne suis pas sûre que c'est vraiment du contre-emploi, par exemple, de mettre du tango dans 12 Monkeys, parce que le tango a quelque chose d'extrêmement. Il y a quelque chose de très anxieux dans ce tango-là. Tu sais, le tango.
Va... pour la danse.
Je penserais pas. Je pense que le tango est une musique point, là, tu sais, qui n'a pas besoin d'être dansé, je veux dire.
Le tango, c'est beaucoup associé à la danse.
Ben, ça l'est associé, mais je veux dire, quand t'écoutes de la Star Piazzolla.
C'est une danse qui est très soivée, qui est très chaude, qui est très chorégraphiée, alors que là, c'est le bordel dans ce film-là, de là le contre-emploi, parce que...
À la base, le tango, c'était quand même une danse sociale, mais qui n'était pas nécessairement si érotique que ça, parce que c'est une danse qui était dansée entre hommes, dans les bordels.
Ouais.
Mais pas de façon sexuelle. Donc,
initialement, oui, c'est
initialement,
vrai.
Donc, il y a quelque chose de très viril dans le tango qui est comme...
T'as vraiment lu Wikipédia? Pour savoir des affaires de monde? Ils m'ont pas appris ça en seconde à 4, certains.
Moi, le soir, je m'ennuie, je suis tout seul, personne m'aime, j'ai pas d'amis, alors je lis Wikipédia. Puis après ça, je vais vous raconter ça, puis je me demande pourquoi j'ai pas d'amis.
Wow.
Ouais.
Marie-Louise autistique, Asperger.
On l'est tous un peu.
Puis le tango me fait penser aussi au... la danse espagnole.
Le flamenco?
Le flamenco, qui est aussi très viril comme danse, parce que les hommes vont la danser comme les femmes, mais d'une façon... Il y a comme une sorte de parenté, donc je pense pas que c'est nécessairement une danse qui est uniquement... c'est comme si tu mets un merengue puis une salsa, oui, ça c'est vrai, là, qu'il y a pas grand-chose d'autre que je veux te coucher, me frotter sur toi. Tu sais, genre...
Bon, on en écoute un extrait.
Mais il me semble que dans le Django, il y a quand même une puissance. Puis dans ça, c'est vraiment... OK, j'ai beaucoup parlé de la musique.
Non, mais c'est...
Il a le mérite d'être mentionné. C'est quand même... c'est le premier truc que tu te prends dans la face dès l'ouverture du film, et puis elle te marque.
Puis il y a les autres musiques aussi. Là. Il y a comme les petites musiques réto des années 50 qui adorent Louis Armstrong et tout. Ouais.
Qui habille le film.
Et dans le futur, quand il se réveille sur le cadre, là, puis c'est comme une image, là, puis là, il entend la musique, puis c'est une espèce de fou de scientifique qui l'accueille, puis il est comme genre, non!
Mais c'est une idée super intéressante, parce que c'est même pas tant la toune. Oui, il a super bien choisi sa chanson, mais c'est pas tant l'émotion que la chanson évoque, c'est le fait qu'il n'a pas eu accès à ça, parce que le futur est tellement scrap qu'une chose que nous, on prend pour acquis, qui est la musique, puis des tounes comme ça qu'on pense même plus parce que c'est des musiques qui datent. Lui, il écoute ça, là, puis il pleure. Parce que pour lui, ça a rapport avec la liberté, avec le fait de pouvoir avoir de l'espoir, avec le fait que le futur est peut-être pas joué, ou qu'il va peut-être pas passer le reste de ses jours dans une grotte à se faire jouer dans tous les trous par des scientifiques. Tiens, pour lui, ça représente tout ça.
Ouais.
Fait que l'émotion de la toune, on s'en fout si ça parle d'une fille ou si ça parle de whatever, mais c'est connecté à quelque chose en lui qui est comme peu. Ça, c'est le fun comme concept. Ça marche, puis on le sent très bien.
Ouais, c'est super bien joué, vraiment.
Ça, c'est quand il écoute la radio, quand la première fois qu'il enlève Madeleine Stowe, après sa conférence, la première fois qu'il arrive vraiment en 96, puis c'est là qu'il est comme super erratic, je sais pas c'est quoi le mot en français, mais il est comme tout paniqué, elle l'a reconnu, mais à toutes les deux secondes, il step comme beaucoup trop vite, il y a beaucoup trop de...
Puis il est intéressant.
D'adrénaline dans le corps, puis là, il réagit, puis là, il entend la toune, puis il dit monte le son, puis là, elle dit t'as-tu un gun? Il dit monte le son, change de sujet, puis là, t'es encore plus paniqué.
C'est bon, c'est
encore
là.
Plus. Super simple, ouais. Ça, c'était
carrément. Puis le personnage est intéressant parce que c'est pas un héros, ben ça, c'est du Gillian, là, c'est pas l'héros classique, là.
Non, c'est le gars. C'est un héros qui devient un héros, c'est une transformation.
Pas parce qu'il meurt à la fin, tu sais, il est comme.
Donc c'est un martyr, donc il y a une
c'est
double transformation.
Tu l'as dit, c'est un anti-héros. L'anti-héros, c'est le personnage qui est pris dans les événements. Puis qui est incapable d'avoir le contrôle, c'est même elle qui le contrôle à la fin, qui dit tu vas faire ça, tu mets la moustache, qui l'habille.
C'est vrai.
Il y a aucun, ce personnage-là, il n'a aucun contrôle sur sa destinée à aucun moment.
Il n'y en a jamais eu.
Le seul moment qu'il y aurait un semblant de contrôle, c'est quand il décide de prendre le téléphone puis de laisser le message. C'est big vrai. Fucking mistake, là, tu sais.
Ça, grosse erreur. C'est joué contre lui parce que le dos est apparu pas longtemps après en disant hey. Ta gueule, vas-y, tu vas le faire.
Exactement. Donc, c'est l'anti-héros classique. Puis moi, j'adore ça, les personnages anti-héros, parce que c'est comme tellement plus vrai. Puis il y a quelque chose de le fun, parce que ça vient te chercher au profond de ton incompétence à accomplir quoi que ce soit dans la vie.
C'est son seul défaut, il n'est pas japonais.
Aucun rapport.
Ouais, ça, c'est according to Marie-Louise Standards.
C'était gratuit.
J'ai d'autres intérêts que le Japon, vous savez.
J'aimerais juste qu'on parle de la fin.
Ou le début.
Ça, ah, c'est compliqué.
Non, mais la fin, typiquement, quand on arrive dans l'avion où t'as David Morse qui transporte le virus, arrive puis s'assoit dans l'avion, puis il est assis à côté de la vieille scientifique qu'on a vue au début, enfin dans toutes les scènes de...
Oh mon Dieu, j'ai jamais remarqué ça, sérieux.
T'avais pas remarqué
ça? Non, j'avais pas remarqué ça.
T'es une niaise. Tu l'as écouté vous 3 mois d'avoir remarqué ça.
J'ai écouté ce film-là 20 fois, j'ai jamais remarqué.
Je te rassure, la première fois, je m'en rappelais pas de ça.
Moi, je m'en rappelais. Je l'ai remarqué la première fois.
Oh my God.
Elle est tellement une tranche.
Je me rappelais que c'était lui qui se voit se faire tuer, machin, tout ça. Et puis que c'était pas l'histoire des... Enfin, l'histoire des 12 singes, c'était la fausse piste et tout ça. Mais je me rappelais pas de ça non plus. Puis là, en le revoyant, j'étais là, oh my God. Et alors, mais là, du coup, ça m'a ouvert, ça m'a provoqué un truc. Enfin, j'étais là en train de me poser des tas de questions. Alors, c'est...
Mais oui, c'était leur plan depuis le début. Là, c'est leur trame. Quand je te parlais d'un film à plusieurs trames d'histoire, on l'oublie, il y a cette histoire-là aussi des scientifiques qui, eux autres, ont un but, un objectif. Ils manipulent, ils vont chercher des informations, mais leur but, c'est d'aller arrêter ce gars-là avant qu'il transmette le virus.
Mais alors, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que moi, je me suis demandé...
Ils n'ont pas l'air de savoir que c'est lui, là.
Est-ce que c'est vraiment ça?
Oui, ils l'ont découvert à ce moment-là.
Ouais, alors ils l'ont découvert à ce moment-là, ouais. C'est juste avant que Willis se fasse tuer, ou je sais pas, à ce moment, je sais pas à quel moment.
Ça, c'est le problème avec les films de voyage dans le temps, parce que normalement, s'ils l'avaient découvert là, puis bon, ok, ça a l'air que leur truc, c'est pas super précis de renvoyer les gens exactement quand ils veulent, mais tu le renvoies pas 5 minutes avant un dos dans l'aéroport pour donner un gun à Bruce Willis, tu le renvoies Au moment où Bruce Willis arrive en 96, t'envoies quelqu'un pour l'aider, puis là, tu lui dis, écoute, la donne a changé, on a découvert c'était quoi maintenant, c'est ça ta mission, fais pas ça pour rien.
Ouais.
C'est, sinon, ouais, c'est encore une fois, c'est un
c'est
problème.
C'est là qu'on rentre dans les problèmes de films de voyage dans le temps.
Oui, ouais. On peut en parler longtemps. Là. Même Back to the Future est rempli de ça.
On pourrait comme ouvrir la conversation, parce que l'idée qu'on avait avec ça, c'était d'entamer une série de films de voyage dans le temps. On pourrait faire Back to the Future.
Back to the Future.
Mais c'est toujours l'idée du voyage dans le temps, c'est que tu t'ouvres tout de suite un paradoxe, comme tu disais tantôt, tu sais. Puis est-ce que
tous les films de voyage dans le temps, c'est inévitable.
Alors, il y a ça, mais moi, la question que je me posais par rapport à la présence de cette femme-là, c'était, c'est quoi vraiment finalement le but de ces scientifiques? Est-ce que c'est d'arrêter ce gars-là, ou est-ce que c'est de faire en sorte que ce gars fasse les choses de manière à ce qu'il puisse dominer le monde? C'est comme
Les gens peuvent pas respirer dans ce monde-là. N'importe qui voudrait.
On est d'accord.
Je pense que l'idée, c'est comme ils veulent empêcher la...
Mais malgré tout, quand t'arrives dans ce monde futuriste, c'est les scientifiques qui ont pris le pouvoir. C'est eux qui dirigent tout.
C'est encore drôle parce que il y a une théorie que Bruce Willis, quand il monte en haut avec son saut, où est-ce qu'il peut pas respirer à la surface, personne ose aller en haut sans le saut. Peut-être que le virus est plus là depuis longtemps. Les animaux sont pas morts.
Non, c'est l'attaque juste des humains. C'est ça le but du virus.
Ouais, c'est un virus mortel pour les humains.
Oui, mais c'est peut-être un leurre.
Ben non, ils sont morts.
Ils sont morts, mais le virus est peut-être parti depuis longtemps. Ils veulent juste pas prendre de chance. Ça, ils le disent jamais. Ça, c'est une question qu'ils adressent pas. Peut-être qu'ils gardent, par exprès, les scientifiques gardent le monde sous terre par exprès pour avoir du contrôle sur eux, alors qu'ils pourraient les repeupler en haut. Je sais pas, mais c'est une théorie qui est valable quand même.
Oui, mais c'est parce qu'on rentre trop loin, parce que l'histoire ne nous amène pas là. Je veux dire...
Non, l'histoire en parle pas du tout de ça.
Non, là, on est comme... Ah, puis il va y avoir une télésérie, on n'en a pas parlé.
Ah
oui? Oui, non, mais...
C'est officiel, non?
Mais oui, c'est officiel.
Mais elle n'a pas déjà commencé?
Elle a déjà commencé.
Mais écoute,
on est toutes parties là-dessus.
Regarde, je suis allé voir la bande-annonce de la télésérie, là, et je suis resté un peu sur ma faim, là. J'étais là, wow! Il y a un truc, tu sais, malgré le fait que c'est fait à notre époque avec des moyens différents, une technique différente et tout,
mais en général,
il y a un côté super pas cool, super cheap, je sais pas, truc que j'ai pas du tout aimé dans ce
film. Tu sais, les séries télé, c'est
Sci-Fi qui produit ça.
Excusez-moi, ils ont sorti une saison, puis là, ils prévoient la deuxième pour 2016. Donc c'est vrai, c'est en ce moment.
Quand tu regardes ce qui passe à CBC, moi j'écoute Gotham, ça c'est bien.
J'ai vu les quatre premiers.
Mais il y en a d'autres, genre de Flash, ou tu sais, ils ont à peu près 4-5 séries comme ça, puis quand tu regardes les annonces, la plupart ont l'air des versions super cheap de gros blockbusters, parce qu'ils savent que le monde aime les trucs de super-héros, fait qu'ils font tout, là. Mais ils n'ont pas toutes l'air bonnes.
Mais là,
ça a pas l'air mauvais, parce que c'est quand même 7.8 sur IMDb, qui veut dire que c'est quand même un bon vote.
7.8 sur IMDb, c'est comme 12 sur 10 dans un test de français. Là.
12 sur 10? 10 sur 12 ou 12 sur 10?
Non, IMDb, c'est super critique.
Non, il a bien dit 12 sur 10.
Okay. Ben, écoute,
c'est parce que t'as des goûts bizarres, Olivier, oublie pas ça. T'aimes Independence Day, tu sais.
J'ai pas des goûts bizarres. C'est quoi la code? Va voir la code d'Independence Day. Hein.
Malheureusement, c'est ça que je
t'en ai. 5.4,
là. Non, Independence Day, ça doit être comme super élevé.
Il y a plein de monde.
6.9. C'est 6.9 Independence Day.
6.9. Pas mal.
C'est-tu.
Tu vois, Star Wars, c'est genre 8.3, là. Ça donne une idée.
Bah, c'est peut-être à checker, alors. Si quelqu'un parmi les auditeurs la connaît, l'a vu, a un commentaire à faire, ben, faites-nous savoir, parce que on a aucune idée de quoi en penser. Juste par la bande-annonce, là, je suis comme.
Écrivez-nous sur Facebook.
Ouais.
Tu vois, c'est le classique, les mauvaises bandes annonces, bon film.
J'en fais pas une généralité. Mais c'est arrivé, c'est vrai.
Mais écoute, une série télé sur l'histoire en question, ça peut être intéressant, mais c'est là que je trouvais que le film, j'en reviens à ce que je disais tantôt, au niveau des couches d'histoire qui sont toutes racontées dans le film d'une façon condensée, ben là, ils peuvent étendre ça dans une série télé à... C'est genre, tu peux aller dans le laboratoire, tu peux te promener.
Ma curiosité, du coup, avec ce score d'IMDb, ma curiosité est un peu attisée quand même.
Ben, je veux dire, en même temps, je sais qu'Olivier ne ment pas ça parce qu'il cite Looper dans Leurs Influences.
OK, mais Looper, il faudrait qu'on le fasse. Et ça tombe bien parce qu'on est dans une série de voyages dans le temps. Pourquoi pas?
C'est quoi les autres?
Mais ça m'intéresse de savoir pourquoi ça te plaît pas.
Moi, j'aurais quand même une question. Est-ce qu'il y a un film de voyage dans le temps qui fonctionne au niveau
Time
du fameux...
Time Cop.
Au niveau du paradoxe. au niveau du paradoxe, au niveau du paradoxe,
voyage dans le temps. Je suis pas certain.
Puis j'écoutais un livre
par défaut.
Par défaut, ils ont tous le même problème. Leur charme, c'est d'avoir déguisé ça sans qu'on s'apparaisse puis qu'on embarque, comme tu sais, Back to the Future. Personne n'a le goût de parler du paradoxe parce que tout le monde aime ça. Personne ne s'attend qu'il aime pas ça. Le paradoxe, il est là, pareil. C'est juste qu'on n'a pas le goût de le fouiller parce qu'on veut pas dire qu'on a découvert quelque chose qui fonctionnait pas là-dedans.
C'est comme Terminator.
Mais il faudrait définir le fameux paradoxe parce que le paradoxe, c'est que dès que tu retournes dans le passé, mettons qu'on retournerait une heure dans le passé.
Tu changes le futur. La première fois que tu es retourné dans le passé, tu peux plus jusqu'à un certain point.
Revenir en arrière.
C'est comme trop un loop, c'est une spirale automatique.
Tu peux pas revenir à ton point de départ parce que le point de départ a changé.
Exactement.
T'es plus la même personne.
C'est
que tu crées des univers. Oui, mais là, à un moment donné, on peut dire que tu crées un univers parallèle.
Ben, c'est OK. La meilleure place.
Puis tu vas retourner dans ton futur, mais il t'aura pas changé le futur. T'sais?
Dans Back to the Future 2, là, quand ils reviennent après s'être rendu compte que Biff avait comme complètement changé la ville, là, puis que Doc fait son graphique sur le tableau, là, puis qu'il dit on a créé comme un timeline différent, machin. C'est exactement ça, l'explication du fuck-up de voyage dans le temps, là. C'est que ça. C'est aussi simple que ça. Et ils sont conscients eux-mêmes du problème qu'ils sont en train de faire. Mais c'est ça pareil.
Ben, une couple de scientifiques très brillants, ils disent que sur le voyage dans le temps, ils disent que ça peut pas être possible parce que on aurait plein de voyageurs du futur qui viendraient nous voir. Pourquoi les voyageurs du futur viendraient pas nous voir?
Et voilà.
C'est vrai.
Et voilà.
Il y a comme une sorte de impossibilité. Puis,
à moins qu'il fasse exprès d'avoir l'air discret, comme ça, c'est une théorie qu'il y a dans Fringe.
T'as une théorie vraiment intéressante dans un livre de science-fiction que j'ai lu qui est vraiment bon, où est-ce que, je me rappelle pas c'est quoi le titre, c'est qu'ils font de l'histoire, c'est des historiens. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'historien qui s'occupe de la science voyage dans le temps. Puis il y a plein de paramètres pour être capable de voyager dans le temps. Puis elle retourne dans le voyage dans le temps, puis il se trompe d'époque parce qu'il y a comme une sorte de période d'incertitude. Puis il y a comme, en fait, pourquoi elle peut être à l'époque où est-ce qu'elle est, c'est qu'elle rencontre du monde qui meurt tous, parce que elle tombe en pleine peste bubonique, tu sais. Puis c'est super intéressant, c'est super bien écrit, je vous conseillerais ce livre-là si je peux retrouver le titre. C'est une femme qui a écrit ça, donc pas beaucoup de femmes de science-fiction, donc peut-être facile à trouver. Et donc, dans cette idée-là, c'est qu'elle peut, le fait qu'elle soit retournée dans le temps n'aura eu aucun impact parce que tous ces gens-là vont être morts. Mais là, jusqu'où va ton impact? Juste le fait d'être dans l'espace, de faire bouger l'air?
Non, pas à ce point-là, je pense. Là,
non, mais attends, tu connais pas le chaos?
Papillon,
ben oui, mais c'est réel, l'effet papillon. Oui,
mais il y a des limites quand même.
Non, il y en a pas. Il y en a littéralement pas.
Oh là là.
La perturbation que tu vas causer, OK, genre le micro-organisme que tu vas aller tuer, l'impact que tu as partout dans l'environnement, tu vas respirer, tu vas vivre, tu vas prendre de l'eau, tu vas avoir une action sur l'environnement, ça a des répercussions. Est-ce qu'on peut imaginer que ta répercussion est genre une petite onde de choc, mais si tu crées le fameux ouragan au Brésil,
ouais,
tu sais.
Ça, t'as une chance sur un milliard que ça arrive.
Pas nécessairement, tu sais. L'effet le chaos, c'est ça qui est fascinant.
OK, à go, on souffle tout par la droite. Puis là, ça va tasser la tempête
c'est
à Cuba.
C'est pas ça que ça veut dire. C'est que le chaos veut dire c'est que des petites variations vont créer un effet immense. Le chaos, là, c'est comme genre, le gars, il faisait ses calculs, OK? Puis pour prédire la température, là, le temps et tout. Puis il s'était trompé 3 décimales dans ses calculs. Puis là, il dit « Ah, je vais reploguer les bonnes décimales. Ah, je sais pas. » Puis là, les résultats étaient complètement différents. Puis là, il était comme « Ça t'empêche de prédire. Tu peux rien prédire dans un système chaotique, tu sais. »
Donc, si, ça pour dire quel
si tu retournes dans le temps,
on fait de voyage dans le temps.
Mais en même temps, je vais lire là-dessus parce que ça a l'air qu'il y a des gens qui disent que c'est possible de voyager dans le temps.
Ben, théoriquement, c'est possible de voyager dans le futur juste en spinant autour de la Terre à une vitesse différente, machin. Là, on ne vit pas de la même façon. Là, fait que
mais là, voyage dans le futur à cause de la théorie de la relativité, si tu vas très, très vite, oui.
Ouais, c'est ça.
Okay. Regarde.
Mais ça, c'est
il paraît, pareil. Je lisais tout à l'heure un article comme quoi la NASA aurait peut-être découvert la manière de faire du warp drive, tu sais,
de pas plier l'espace, c'est de faire bouger l'espace pour que le vaisseau.
Oui, ok, mais on est d'accord que là, ça c'est pas la même chose parce que tu peux pas revenir à ton point d'origine. Tu peux jumper dans le futur.
C'est pas un voyage dans le temps, c'est un voyage dans l'espace-temps.
Ouais.
C'est que tu fais bouger l'univers, l'espace-temps plus vite que la vitesse de la lumière, mais le vaisseau, lui, il bouge pas. Donc, tu brises pas la loi d'Einstein sur le fait que tu peux pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, parce que c'est pas toi qui bouge, c'est l'univers, c'est l'espace-temps qui bouge. Et ça n'a pas été prouvé comme quoi c'était pas impossible. On a eu
le même article.
Est-ce qu'il y a un film qui a été fait sur des choses de même, mettons?
Ben, ça, je pense que... Le... Non, mais...
Hey, il faudrait qu'on regarde. Ça pourrait être le temps de faire une couple d'épisodes de Star Wars si on fait des trucs de voyage dans le temps. Star Trek Next Generation, je pense qu'il y en avait une couple de bons là-dessus. Ouais, certainement.
Non, mais là, typiquement, le warp drive, c'est ça, c'est des trucs acquis. Dans ce genre de franchise-là, c'est le truc acquis, le warp drive.
Ouais. Mais le warp...
jamais vraiment rentré.
Mais le warp drive. Warp drive, ça te permet pas d'aller faire un tour. Ça te permet pas d'aller faire un tour à Pompéi puis dire aux gens de Pompéi, hey, gang, sortez de.
Ouais, quittez là parce que le truc va péter. Non.
Ah, putain, voyage dans le temps, Doctor Who, hostie. Faut que vous écoutiez quand même la saison 2 ou 3.
La saison 18, non, je sais pas.
Non, la 2 et 3 de la nouvelle franchise. La première est pas super, là, mais la 2 et 3 sont vraiment excellents.
Je n'ai jamais... un podcast sur deux saisons de...
Vous allez commencer à l'écouter, vous allez pas arrêter.
Non,
là.
Je suis sûr que oui, mais là, je suis comme dans deux autres séries en même temps, fait que ça va peut-être être un peu...
Écoute, je vous dis, si on est pour parler un peu de voyage dans le temps, Doctor Who, c'est quand même un incontournable du voyage dans le temps.
On commencera à l'écouter maintenant pour la faire dans trois podcasts.
Exactement. Commencer la première franchise, vous pouvez écouter comme un peu le début de la première franchise, mais la première saison est so-so, donc passez-les vite. La deuxième saison est vraiment excellente.
La nouvelle franchise.
La nouvelle franchise. T'écoutes pas les trucs des années 70, oublie ça, là. C'est bien trop long, il y en a trop. Puis c'est comme de la vieille science-fiction un peu boboche, là, tu sais. Ben, tu sais, tu lis sur Wikipédia, puis tu comprends ce qui se passe, là, parce que là, il y a des espèces de méchants robots, Will.
Okay. Bon, fait que pour le prochain épisode.
Fait que voilà, on est arrivé au moment de la décision. La décision.
Time Cop.
Les tiens, ton fucking Time Cop.
C'est à quelle époque, Time Cop?
Donc, on irait à Back to the Future.
Est-ce
qu'on fait ça à la Alien?
On peut faire un spécial.
Les trois. Là.
La franchise en entier.
Oui, oui, parce que c'est.
Un épisode plus long, on peut faire deux heures.
Okay. C'est
on
comme.
Peut faire un director's commentary.
C'est comme Back to the Future, c'est quand même pas. C'est pas Blade Runner non plus. Là. C'est cute, c'est le fun, il y a plein de choses à dire. Le premier est bon, le deuxième, le troisième, mais je veux dire, on parlera pas à n'en plus finir de la cinématographie.
La quoi?
Je vais peut-être insulter quelqu'un, là.
Non, j'ai hâte de les revoir. Ça fait tellement longtemps que je ne les ai pas vus. J'ai vraiment hâte de les revoir. Donc, on va se faire plaisir avec le Back to the Future. Et puis, en attendant ça, Marie-Louise, tu es at Marie-Lou Garipi sur Twitter.
Non, mais je vais faire un petit...
tu vas nous faire
un petit wink-wink à aller voir la page du passager. Puis Olivier va dire la même chose que moi.
OK, cool. Oui, non, mais c'est
parce que là, on va lancer quelque chose bientôt. The Passenger
Info. The Passenger.
F.O.
F.O.
Ben oui, parce qu'on ne pouvait pas avoir The Passenger, c'était déjà pris. Donc, The Passenger F.O. Puis il y a beaucoup
F-O.
De...
Ouais, F comme la lettre
comme
F et O comme la lettre O dans la compagnie. Film Oddity, donc The Passenger.
Puis il y a beaucoup d'actions qui se passent en ce moment parce qu'on a...
Ça s'en vient, il y a plein d'actions qui s'en viennent.
C'est ça, donc on est rendu presque à quoi, 2000 personnes.
On doit être à 5, 10, 15, 20 personnes d'avoir 2000.
Ouais.
Nice.
Puis donc, on va avoir plein d'actions bientôt. Puis vous allez pouvoir nous voir, Olivier et puis moi.
Ben oui, on a tourné plein de vidéos qu'on va vous montrer dans les prochaines semaines. On ne sait pas pourquoi, mais vous allez les voir. Et là là, vous allez nous voir. Pas juste nous entendre, nous voir.
Cool, The Passenger F.O. sur Facebook.
Allez faire un tour.
C'est cool. Et puis sinon, c'est ça. Marie-Louise, t'es marie-louise.gariepi sur Facebook. Puis toi, t'es Olivier Sabineau.
Olivier Sabineau. International.
Pour le podcast, eh ben, c'est sur 24quarks.com iTunes. Oui, qu'est-ce que tu as dit?
Parce qu'on parlait du Passenger, puis j'ai mentionné Jean-Benoît, qui est notre animateur.
Oui, j'essaie de le
plugger
tantôt parce qu'on parlait de Star Wars, puis dans leur podcast, que je j'oublie le nom vite de même, dans The Fly, mais JB. Quoi son nom? JB Gagné, qui fait un podcast, c'est notre community manager. Puis ben, là, on va vous retrouver le nom de son podcast, puis on va vous les plugger, puis lui, il nous écoute, mais moi, je l'écoute cette semaine, puis c'est une gang de d'autres qui parlent de toutes sortes d'affaires geeks. Puis il y avait un épisode sur 19-2, mais de la moitié de l'épisode, ils ont parlé de la bande-annonce de Star Wars. J'ai vraiment trouvé que c'était d'une belle couleur parce que c'est une gang de gars qui s'obstinent entre eux autres. On dirait qu'ils ont fait ça le matin, mais il y avait déjà l'air saoul sur une coupe de bière. C'était vraiment cool. Non, mais tu sais, une gang de chums qui s'obstinent ensemble, puis qui ont une belle autodérision, je trouvais. Ah non, ils sont le fun. Ils sont vraiment le fun.
Réalité augmentée.
Il est pas peu connu, celui-là, tu sais.
Toi, tu le connais?
Ouais. Je l'écoute pas régulièrement, là, mais je... Oui.
Ben, on le savait qu'il
était... je me fais comme un devoir de me faire ma culture de podcast québécois parce que, tu sais, j'écoute beaucoup de trucs anglophones, américains surtout. Puis je m'en veux un peu quelque part parce que voilà, on est au Québec, puis il y a des bonnes choses qui se font au Québec.
Moi, j'étais quand même bien contente parce que quand on intervient Jean-Benoît, il me dit: Marie-Louis, je reconnais ta voix. Tu ne ferais pas 24 quarks secondes. Mais j'étais comme genre, oh!
C'est cool. Mais ça, c'est la fois que tu l'as laissé parler parce que tu son podcast. Sérieusement, mais il y a monsieur, plus grand gueule que toi puis moi mis ensemble, mais on l'a pas laissé parler longtemps. Mais
on l'a coté.
Ah oui, on l'a. On est horrible.
On va
parler. À partir maintenant, JB, on promet qu'on va laisser parler.
Donc c'est ça. Puis en fait, grâce à pour finir ce que je disais là, grâce à Parlons Balado, ben je parcours la liste là, tu sais, de tous les podcasts québécois qui se font. Il y en a un paquet. Donc, c'est bien là. C'est sûr, je dois faire des sélections parce qu'il y a pas tout qui m'intéresse non plus, mais moi, je me fais ma petite culture. Tu sais, je me familiarise avec toute cette gang là. Qu'on avait en partie rencontré, on avait rencontré quelques-uns.
Au All Stars.
Auquel on n'a pas été réinvités cette année.
Il n'y en a pas eu cette année, je crois.
C'est pas un truc. Olivier, dès qu'on a dit le All Star, c'est important pour lui.
Mais regarde, là, tu sais pas.
Les trois lettres qui comptent dans la vie. V, le I et le P.
Bon, et ben, sur ce.
Sur les vrais couleurs d'Olivier Sabino.
Voilà, ça et tout.
Bleu, blanc, rouge.
Donc, pour nous suivre sur Twitter, c'est @24quarks, toujours avec un S, et puis sur la page Facebook, et pour nous écrire, c'est 24quarks@gmail.com. On se quitte avec une bande annonce de Back to the Future qu'on va dénicher quelque part sur Internet.
On va mettre celle que c'est une comédie trouver, romantique entre Marty et Doc avec la tune Salisbury Hills qui joue. On va mettre celle-là.
Voilà. Merci de votre fidélité et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye.
Marty leads an ordinary life.
No McFly ever amounted to anything in the history of Hill Valley.
Yeah, well, history is going to change.
And 1985 is not his year. But Dr. Brown is about to change all that.
Are you telling me that you built a time machine out of a DeLorean?
He's sending Marty 30 years back in time.
It works!
It's a flying saucer from outer space!
Now, he's trapped in the past.
This has got to be a dream.
About to meet...
Chocolate.
...his future father.
He's a peeping Tom.
Wow!
And he's making an impression on his mother.
He's an absolute dream. And he can sleep in my room.
Anything you do could have serious repercussions on future events.
Now, he's got to make his mother and father fall in love.
For crying out loud, I haven't even been born yet.
And only Dr. Brown... can help him get back to the future.
Program complete.
Get away from her, you bitch!
Shall we play a game?
24 secondes.